Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 49e Weekly News cette semaine avec moi pour commenter l'actu, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Mister René Bunny.
Bonsoir les geeks.
Flo.
Salut les loulous.
Et un nouveau membre de l'équipe que l'on accueille avec un grand plaisir, même s'il faisait déjà plus ou moins partie de l'équipe un petit peu, Kevin.
Salut tout le monde.
Cette semaine, nous allons parler, bien sûr, dans la partie Screen News de cinéma, de TV et de jeux vidéo, avec entre autres un court-métrage Bizarro qui a remporté la faveur de toute l'équipe, oh oui. Ainsi que quelques infos concernant Vin Diesel chez Marvel. Le gros sujet de cette semaine sera consacré à Vertigo qui fait enfin quelques annonces. Vertigo qui a décidé de bouger un petit peu. Et puis nous terminerons avec les brèves comics, avec un petit peu de tout, du Marvel, du DC, de l'indé.
Du Marvel.
Du Marvel, oui, effectivement, entre deux tranches de comics.
Bah, il y a des infos qui puent, donc voilà.
C'est propre. Et puis nous terminerons avec le match de la semaine et Comics.com, la partie où l'on répond à vos mails. Je suis Steve et vous écoutez le Weekly News. On va commencer comme chaque semaine avec nos dernières geekeries du moment, c'est le What's Up. On va prendre le même ordre, hein, Bruno.
Je vais vous parler d'une nouvelle série là qui vient de commencer, donc Under the Dome. Donc adapté d'un roman de Stephen King que je n'ai pas lu, mais que Nono et Flo ont lu, je crois.
Oui.
Donc ça a la particularité en plus d'être écrit pour la télé par Brian Kevogan, donc qui lui est quand même pas mal impliqué dans les comics.
Ouais, c'est bien pour ça qu'on n'a pas de saga en ce moment.
Voilà, ouais. Et un épisode plutôt bon, on va dire, qui m'a pas mal intrigué. Bon, le pitch, c'est simple, hein, c'est dès le début, hein, ça arrive cette histoire. Il y a un dôme qui se forme au-dessus d'une ville. Un dôme qui apparaît comme par magie et qui bloque les gens à l'intérieur de leur ville. Et ils ont plus aucun accès avec l'extérieur, il y a plus d'électricité. Enfin, ils perdent toutes les communications avec les États-Unis, ils se retrouvent comme ça coincés à l'intérieur. On sait pas pourquoi, il commence à se passer des choses un petit peu bizarres dans la ville avec des personnages qui disent des choses un peu bizarres. C'est assez impressionnant techniquement, je trouvais que c'était pas mal. La première apparition du dôme commence avec une vache coupée en deux.
Donc ça, c'était... Ah, ils ont pris une vache, ouais. c'est un raton laveur dans le bouquin.
Ah bah là c'est une bonne vache bien coupée en deux, il y a pas
graphiquement
besoin, là,
c'est plus impressionnant, oui.
Ouais. Au niveau du casting, pas vraiment de tête connue à part un des acteurs.
À part la vache, hein, oui. qui était super. C'est la vache Milka, en l'occurrence.
Il y a l'acteur qui joue le flic et le beau-frère dans Breaking Bad, qui est très bon et qui a joué dans beaucoup d'adaptations, hein, de trucs de Stephen King. Donc voilà. Franchement, pour l'instant, une bonne surprise et puis vraiment envie de savoir où ça va aller parce que c'est quand même très mystérieux tout ça.
Rappelons que cette série est quand même produite par Steven Spielberg.
Ouais.
Donc il y a peut-être aussi un petit peu plus de moyens, puis une patte. Et surtout, bah, pour les gens qui préfèrent l'AVF, M6 a déjà acheté les droits d'Under the Dome. Donc voilà. Les droits des 13 épisodes de cette première saison, si une saison il y a seulement. On verra pour la suite.
En tout cas, le pitch me rappelle quand même pas mal de choses. Hein. C'est pas forcément le pitch le plus novateur, mais bon, ça peut être marrant.
Ça je suis sûr qu'en bouquin, c'est vraiment très très original et très bien foutu.
Ça me rappelle notamment un épisode d'X-Men récent, en fait.
Rappelle-toi, Steve, à la fin de... un vieil épisode de Shadow Pact.
Aussi. Oh, il y en a eu plein comme ça, en fait. Puis même, ça rappelle un peu Candor, je pense, aussi.
Oui, ça rappelle aussi la série chez Image Girls des frères Luna.
Ou les Simpsons, oui, le film.
Ou les Simpsons, le film, exactement.
En fait, il y a beaucoup d'inspiration. Hein.
Ouais, enfin, la nouvelle est, enfin, le roman, parce que d'ailleurs, c'était un double roman, je crois, en français, c'était sorti en deux tomes. Ça date pas d'aujourd'hui, hein.
Il a deux ans, trois ans, trois ans.
Que trois ans? Ah, j'aurais dit 2006-2007, ouais. Moi.
Ah, c'est assez récent, hein, je crois.
Non, il a 2010, je pense.
Ah ouais, bon bah.
Avec toujours ces Français qui ont la fâcheuse tendance à diviser les romans qui sortent en un tome aux États-Unis en deux.
Oui, enfin là, Under the Dome était sorti en deux tomes aux États-Unis.
Ah bon, aussi,
crois,
d'accord, ok. Bon, alors
fait, c'est son roman le plus grand avec le fléau, okay. Avec The Stand.
Bien, moi, on va, si Bruno a fini son WhatsApp, on va passer.
Oui, et moi, je suis juste
Mister
un. Je m'interroge juste, justement, sur Bruno. Oh. Sur quelle chaîne as-tu regardé ça, Bruno?
Sur CBS, bien sûr.
J'ai demandé
CBS,
à mon oncle.
C'est pas sur
d'Amérique.
CBS, Bruno.
Ah oui, sur CBS, oui, bien sûr.
Voilà. Que tu captes parce que tu as pris l'offre satellite qui te permet d'avoir les chaînes américaines.
Exactement.
Bien sûr.
Ouais, le Bunny Starship, satellite, machin. Enfin, celui que j'utilise aussi, quoi. Avec un logo de grenouille dessus.
Non, mais c'est parce que je suis critique sur Internet, donc bon, je peux quand même
tu
regarder.
Tu les reçois, sur... voilà.
Bien ça. Sûr, ouais. Voilà, les chaînes lui envoient directement.
C'est CBS qui m'envoie directement le truc.
Il lui envoie le feed CBS directement sur son ordinateur, c'est magnifique.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, si... Quand Bruno est pas content, il leur dit oh non, franchement c'était pas terrible, ils arrêtent la série. Hein.
Mais non, mais comme il a dit que la dernière série de CBS qu'il a vue n'était pas terrible, ils lui ont coupé le net vendredi soir.
Exactement.
Une heure,
ah,
pour
c'est
le faire
ça. D'accord, ça explique cela. Ouais. Ok, bah tout s'explique en fait. C'est formidable.
Alors, toi,
on a même une continuité dans les podcasts. Bah alors moi, par exemple, petite geekerie, j'ai enfin trouvé la figurine plomb de Necron.
Ah, ah, sympa.
Donc voilà, je me la suis prise du coup. Et puis
dans le fion, bien sûr.
Non, j'espère pas parce que justement elle a une énorme faux et ça doit piquer un peu quand même. Mais j'ai aussi trouvé Sasquatch et Puck, tu sais qui était sorti
tandem,
en hors série, voilà. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce que Puck c'est vraiment l'une des plus petites figurines, sinon la plus petite sortie à ce jour. En tout cas, il est ridiculement petit à côté de Sasquatch, quoi. C'est assez marrant. Donc voilà, pour les fans d'Eagle Moss.
C'est parce qu'ils n'ont pas encore fait des figurines de Game of Thrones, c'est pour ça.
Ouais.
Voilà.
Ah oui, oui.
Ça,
bah,
c'est
oui.
fait. Bon, ouais.
Mais ça pourrait arriver en plus. Il y a des rumeurs qui disent que justement on va avoir des figurines plomb de
je t'avouerais que sur Game of Thrones, c'est facile de faire une série en au moins 150 figurines, il y a tellement de personnages.
Ouais. Ben ce serait pas impossible que ça arrive, mais du coup voilà, donc je commence à avoir une petite collection sympa, aussi bien DC que Marvel. Et puis sinon, bah alors j'ai enfin vu Iron Man 3 depuis le temps, mais j'en reparlerai peut-être plus tard du coup.
Très bien, on ne sait pas encore dans quelle rubrique, mais le doute plane.
Ouais, voilà, c'est dans le Screen News bien sûr.
On va passer à Flo pour ton WhatsApp de la semaine.
Moi, j'ai dormi pour me remettre du live de Comic City.
Quel crevard.
Voilà.
Petite nature.
Non, j'ai pas du tout geeké cette semaine.
Geeké.
Je me suis reposé.
Mais si t'as passé ton week-end à jouer à Skyrim, arrête.
Oui, un peu.
Ah, mais c'est pas une activité geek, ça, peut-être.
Donc tu t'es pas pris des gros coups de geek ce week-end, quoi.
Non.
C'était franchement tout juste la moyenne, là. Tout juste. On va passer maintenant à Kevin qui va pouvoir nous parler de ses dernières petites geekeries, ce qui permettra aussi aux éditeurs de découvrir un petit peu Kevin.
Bah oui, t'es qui toi?
Bah écoute, moi c'est un peu pareil que Florent, par exemple, ce week-end. À part que j'ai sorti mes vieux cartons de jouets.
Ah bah c'est cool.
Année 90.
Ah mais c'est Benny Bees, quoi.
Ah oui, bah oui. Alors qu'est-ce que t'as sorti?
Attention, ce n'est pas Benny Bees, on a dit. Non mais quitte à parler des années 90, autant y aller à fond, quoi.
Et donc, j'ai sorti les figurines Tortue Ninja de l'époque.
Putain!
En fait.
Ah oui!
Et je me suis rendu compte à quel point elles étaient classes.
Elles étaient un peu molles, non? C'est pas
ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Elles étaient super bien, en fait.
Ah ouais.
Donc voilà, je suis content maintenant de les prendre sur mes étagères.
Bah, moi aussi, j'ai ressorti mes figurines Tortue Ninja il y a peu de temps en plus.
Quand c'est celle des films, genre les méchants, c'était les méchants qu'il y avait dans les films aussi, ou les trucs comme ça?
Ouais, voilà, moi c'est les tortues, j'ai.
D'accord.
Raphaël, Mickey, j'ai joué, etc. Ouais, celle des films, je pense que c'est la deuxième à mon avis.
Non, mais elles étaient classe, ces figurines, effectivement.
Ouais,
mais il y a eu énormément de figurines autour des Tortues Ninja et elles étaient toutes très très bien réalisées, je trouve.
Je suis allé dans un magasin de jouets il n'y a pas très longtemps et j'ai vu qu'il y a une nouvelle collection, elle est pas mal quand même aussi, pour les amateurs. Il y a différents formats.
Ça doit être sûr par rapport au nouveau dessin animé.
Ouais, la dernière série animée est vraiment pas mal. Hein.
C'est toujours pareil, moi j'aime bien parce que c'est ancien et que j'ai connu ça quand j'étais petit, mais après j'ai beaucoup plus de mal à accrocher à un truc actuel.
Je sais pas si tu l'as regardé toi Kevin.
Ouais, j'ai regardé, moi je suis pas un gros fan. Non.
Bah, j'ai trouvé que ça était plus sympa que la série animée précédente.
Mais attends, pour bien commencer dans le podcast, Kevin, dis à Steve que Green Lantern tu trouves ça tout pourri en dessin animé et que Star Trek c'est de la merde quoi. Enfin, voilà.
Non, Star Trek j'aime bien, le film non, le deuxième non. Mais Star Trek, j'aime bien, moi.
Merci. Ça me soulage, ça me soulage, ça me fait
rien. Je sais pas si t'as vu, tu l'as vu, New Dark Knight, c'est leur partie ou pas?
Toujours pas eu le temps.
On a dit, tu vas pas aimer, non, vraiment.
Ah, moi, j'ai adoré.
Je te conseille pas. Ouais, mais t'avais vu les premiers films, toi, Bruno?
Oui, oui, bien sûr.
Ah bon?
Non, moi, j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé même ça assez cool pour les fans des anciens films, donc. Mais voilà, après, c'est...
Ouais, mais le problème de la référence de Nintendo Darkness, c'est qu'elles sont toutes loupées.
Ah, je suis pas d'accord.
Ah, c'est
d'accord. Mais faut dire que j'avais vu un film tellement pourri avant, qui était Man of Steel, donc. J'ai dû beaucoup apprécier Star Wars.
Attends, donne le titre de Libération, justement.
Le titre de Libération, ah oui, c'était Nul Acier. C'est vrai que c'est pas mal, c'était très, bien, très trouvé. Bon. Bien trouvé. Ouais,
Superman Nul Acier, quoi. Il devrait faire un titre qui s'appelle comme ça. Ou une mini-série.
Ça devrait être l'arrière de DVD d'ailleurs pour la sortie.
Totalement Nul Acier.
Tu sais, quand il cite les meilleurs commentaires, mais, Nul Acier,
franchement,
Libération.
Franchement, moi je suis le type de public qui achète un DVD, justement, plus les critiques sont mauvaises, plus ça me fait marrer, plus j'ai envie de voir le désastre.
Ça s'appelle du sadomasochisme à ce niveau-là.
Oui. Oui, oui, mais moi ça me ferait marrer, quoi. Justement, j'ai plus envie de le voir d'un seul coup avec cette critique.
Ouais, toi,
bah, justement, avant de passer très vite à mon WhatsApp, je voudrais aussi préciser quand même que Kevin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est celui qui faisait les comics headline. Rappelez-vous sur Facebook. Hein. Si je me trompe pas de nom de
Non, c'est bien ça.
C'est bien ça. J'ai eu un doute. L'espace d'une seconde, j'ai eu un doute. J'ai fait merde, c'est pas le bon titre.
Kevin.
Ouais, on peut donner ton nom d'ailleurs.
Complet.
Oui, donc c'est le fameux Kevin Barras aussi, dont on avait parlé dans des podcasts, puisque je disais que si quelqu'un est responsable, c'est forcément Kevin Barras.
Voilà.
Donc voilà. Donc si le podcast est tout pourri aujourd'hui, eh bien ce sera la faute de Kevin Barras, bien entendu.
Je l'assume.
Allez, je termine la section WhatsApp avec mon week-end, un week-end long, fatigant, puisque déjà il a fallu se remettre d'un podcast de 4 heures. Mine de rien. Ouais, et je dois avouer que j'ai fait une des meilleures nuits que j'avais fait depuis très longtemps. J'ai dormi comme une masse pendant 8 heures d'affilée. Ça faisait 30 ans que ça m'était pas arrivé. Au moins, c'était thérapeutique.
8 heures, thérapeutique. Tout ça.
J'ai dormi 8 heures d'affilée, ouais. Ça faisait 30 ans que ça m'était pas arrivé.
Ah bah,
moi,
8
heures, c'est une petite nuit.
Oui, pareil.
Pour moi, c'est une grosse
nuit. C'est une nuit normale, quoi, on va dire.
Sinon, bah, voilà, un week-end sympa, un week-end avec de la famille. Un spectacle de danse, donc tout sauf du la geekerie, hein, finalement. J'ai vraiment pas eu le temps de faire le geek cette semaine. Enfin, ce
c'était toi qui dansais?
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'était
il
moi.
Il était déguisé en fleurs. Avec des petits pétales autour de la tête et tout. Il faisait des petites arabesques.
Voilà. T'as vu ma gueule, franchement.
Bah oui,
gueule
justement,
à danser,
justement.
Oui.
Justement.
Je veux bien être bangé, mais moi, ma danse s'arrête là, quoi. Ça s'arrête juste à ça. Être bang pogo.
Au fait,
c'est le pas que je connais.
Après avoir vu Iron Man 3, j'ai envie de dire, t'es notre mandat, hein, Steve.
mais il manque juste
Iron Man 3. Non, mais faudrait que tu vois Iron Man 3 pour vraiment comprendre.
Ouais, c'est prévu.
Oh putain, ouais. Oh merde.
Oh merde, putain, maintenant j'ai vraiment envie de voir le truc parce que.
C'est vrai, non, on va passer le mandarin maintenant.
Tu vas être surpris, tu vas me remercier après quand tu l'auras vu.
Putain. Bon allez, on va attaquer quand même l'émission, bah oui, parce que même. Ça fait presque un quart d'heure qu'on enregistre et qu'on a toujours pas commencé. On va commencer avec la partie Screen News. Et la partie Screen News, le va commencer par le cinéma comme chaque semaine. Et c'est selon Henri Cavill. C'est bien Henri, hein, qui s'appelle.
Oui, c'est ça.
Oh, j'ai des gros doutes ce soir. Je suis à la ramasse. Selon Henri Cavill, un film Justice League pourrait ne pas voir le jour de si tôt que ça.
Ouais.
Que quelqu'un prenne le relais parce que.
Ouais, ouais, mais en fait, c'est dans une interview où en fait, il dit un film Justice League, ça pourrait être bien, mais il faut que ce soit fait correctement, quoi. C'est-à-dire que ce serait bien de pouvoir un petit peu développer l'univers et tout, mais. Donc, on le sent un peu froid à l'idée de faire un Justice League très rapidement, quoi.
Alors, c'est bien qu'ils s'en rendent compte maintenant.
Je vais juste rajouter le commentaire que Bruno a omis. Ouais, faire un Justice League qui soit fait correctement. Dixit Bruno, qui ne l'a pas dit mais qui l'a pensé très fort, ils auraient dû penser à faire ça aussi pour Man of Steel.
Ouais, non, mais c'est... Bah en fait, le truc, c'est que dans Man of Steel, je vais pas faire de spoil, mais ils ouvrent vraiment très peu, enfin presque pas, sur un possible Justice League. Et du coup, c'est vrai qu'ils se sont pas vraiment donné, je sais pas, des pistes pour faire une Justice League. C'est...
Rappelons que chez Marvel, ils ont pas fait un film avant, quoi. Ils ont fait deux Iron Man, ils ont fait un Captain America, un Thor avant de faire Avengers.
Bon, ça se termine quand même sur Clark qui découvre la Batcave, donc je sais pas.
Je me rappelle que c'était prévu longtemps à l'avance. Là, on ne sait même pas si c'était prévu avant le démarrage de Man of Steel.
Selon DC, 2015, ouais. Comme ils avaient dit déjà. Ouais,
mais ce qu'on sait, c'est qu'ils vont tourner Man of Steel 2 a priori l'année prochaine. Mais du coup, faire un Justice League dans la foulée, je sais pas quoi. On le sent un peu fort.
Un Justice League de la qualité de Man of Steel.
Donc, un autre détracteur du film. La personne de Kevin.
Voilà,
Flo, définitivement, tu es tout seul. Hein.
Non, il y a Sam.
Oh, j'ai hâte
mais Sam,
de le
pas
voir
ce
parce que ce serait
là,
drôle.
Non, mais
que...
faut arrêter d'en parler parce que je vais m'énerver après.
Mais moi, j'ai pas testé. Il y a des bonnes idées, mais bon, voilà, dans l'ensemble, c'est pas bon.
Alors, il y a pire que Man of Steel, c'est le préquel de Man of Steel en BD sur Supergirl que j'ai lu sur internet, qui est disponible gratuitement. C'est vraiment de la bonne grosse merde. Donc voilà. Si c'est ça leur univers étendu des films, franchement c'est mal barré. Donc je vous invite à acheter un œil. C'est vraiment ultra laid et ultra nul.
Bon, bah ce sera pas fait alors.
ça donne envie. Hein. Faut te prendre comme chef de campagne de publicité. En
fait, c'est mieux à dire.
Flo, Kevin, avez-vous quelque chose à rajouter sur cette déclaration d'Henry Cavill là?
Bah non, je pense que c'est pas étonnant.
Non, il explicite un peu ce que tout le monde pense. Hein. C'est le film en lui-même, c'est vrai, ouvre pas la porte à un film Justice League. En même temps, ça serait compliqué. De toute manière, dans les super-héros, c'est toujours compliqué parce qu'un super-héros, c'est puissant. Le faire vivre et tout avec d'autres héros, c'est pas facile. Tout est possible. C'est juste qu'on n'a pas imaginé toutes les solutions possibles. C'est sûr que Superman, il est très puissant. C'est dingue. On a le même problème dans les comics, quoi. Mais moi, je vois le truc possible. Mais pas en 2015, plutôt 2016. Je vois un autre film avec un autre super-héros avant.
Je pense que la meilleure solution de DC hein, pour pouvoir faire vivre cette franchise au cinéma, ce serait peut-être de faire un film sur la Légion.
Non, je pense que la meilleure solution, ce serait de faire un film sur un Bushbug.
Ah, t'as gagné, c'est meilleur que la
Non, mais ils avaient la possibilité de mettre un petit peu des pistes. Je sais que là, j'ai revu les deux films de Donner cette semaine. Et même dans le film de Donner, il y avait plus de pistes par rapport à la Justice League, puisque quand on voyait Clark, enfin quand on voyait Kal-El dans sa soucoupe volante, en fait il y avait son père qui lui expliquait l'histoire. Il parlait des autres galaxies, de ce qui se passait sur d'autres mondes et tout. Là, ils auraient pu faire pareil en disant voilà, la Terre est contrôlée aussi. Enfin, il y a les Green Lanterns qui surveillent l'univers, machin. Ils auraient pu faire des petites pistes comme ça, des petites choses, et ils l'ont même pas fait. Donc c'est vraiment dommage, quoi.
En tout cas, si le film Man of Steel ne propose pas d'univers étendu, peut-être que des courts-métrages le feront à sa place, puisqu'il y a un petit très court, un très 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 court-métrage de Bizarro qui est sorti sur YouTube.
Oui, une petite vidéo qui a été postée sur le YouTube, la chaîne YouTube de DC Comics, donc c'est vraiment un truc officiel. Une mini histoire en animation traditionnelle, très sympa sur Bizarro. Franchement, on vous donnera le lien dans quand on postera le Comics Weekly, le Weekly News.
Si ça rajoute moi du boulot à faire en plus.
Je le mettrai sur la page Facebook.
Et, Steve vous fera un résumé d'ailleurs et il va retourner le film chez lui
non,
avec les moyens du bord.
C'est très joli, c'est assez amusant et franchement, ça coûte, c'est gratuit donc allez.
Ça coûte gratuit.
Ça coûte gratuit. Ça coûte que dalle.
Donc, très tu l'as vu aussi Kevin, je crois.
Ouais. Bon, en fait, c'est une histoire assez classique de Bizarro, très courte, comme le disait Bruno. Et c'est vraiment bien fait, c'est bien animé, c'est marrant, voilà. Ça fait le job, quoi.
Quelqu'un d'autre l'a vu, Flo, Benny?
Ah ouais, c'est très, très, bon, oui, j'ai rien de plus à ajouter, c'est très sympa. Ça s'appelle Tales of Metropolis.
Je l'ai regardé aussi, et c'est vrai que c'est marrant, parce que ce genre de court-métrage est souvent meilleur que les films proposés par DC, donc bon.
Bah t'as moins le temps de délayer quoi. Enfin rappelons que le truc fait 1 minute 16 hein, quand même.
Oui.
Donc faut vraiment aller à l'essentiel.
Mais c'est 1 minute 16 de bonheur comparé au fait aux films qu'ils peuvent nous proposer parfois quoi.
Très bien. On va maintenant passer à la partie Marvel. Marvel qui a annoncé, enfin en tout cas Disney qui a annoncé un nouveau film totalement inconnu qui n'était pas prévu au programme pour le 8 juillet 2016. Ça vous paraît pas étrange?
Mystère.
Alors, je ressors peut-être de nulle part, mais c'est. Est-ce que ça. Ils avaient déjà annoncé officiellement Doctor Strange c'est, là, c'est encore autre chose que le possible Doctor Strange
Je crois que c'est pas encore officiel, Doctor Strange.
Mais non, c'est pas officiel, mais non, bon, on avait vu des dates.
On avait eu la date du 6 mai 2016 ainsi que celle du 5 mai 2017 pour des prochains films Marvel de la phase 3. Et là, maintenant, ils nous sortent une troisième date qui serait le 8 juillet 2016.
Ouais, déjà, c'est pas habituel pour Marvel comme date. Donc c'est un peu étrange.
Vous savez ce que ça peut sentir? Ça pourrait être le film en deux parties, du coup avec 2 mois d'écart. Peut-être un film qui aurait besoin d'être un peu plus long pour développer l'histoire.
Je sais pas si ça serait dans les tuyaux de Marvel de faire un truc comme ça.
Mais c'est étonnant de sortir deux films comme ça avec juste 2 mois d'écart. Quoi qu'ils l'ont déjà fait pour Thor et Captain America, ouais.
C'était mai et juin.
Oui, c'est vrai. C'était aussi assez proche. En tout cas, ils vont inonder le marché avec des films.
De toute façon, ils ont que ça à faire. On voit bien d'ailleurs, puisque la preuve, c'est ce qu'on a annoncé la semaine dernière, Sony se réserve déjà des dates de 2018 pour être sûr d'être tranquille et ne pas tomber en face des productions Marvel.
Après, c'est normal. Hein. Enfin, ça prend toujours 3 ans au moins la production d'un film. Donc, on peut calculer de façon assez logique la date de sortie. Mais...
On reste à voir ce que ce sera. Pour le moment, rien de définitif. Hein. De toute façon, ces dates sont souvent lancées comme ça pour les soi-disant les réservés, mais ils peuvent très bien décider de les changer. Peut-être pas à la dernière minute, mais en tout cas quelques mois avant.
Ça peut être un gros coup de bluff aussi pour emmerder un petit peu la concurrence. Et si ça tombe, ils vont nous servir 15 dates qui vont pas arrêter de changer dans tous les sens pour déstabiliser la concurrence.
Ouais, ou alors ce sera un film animé tout moche. Qui sera le plus mauvais film de Marvel.
Ouais, par contre, parce qu'au niveau de la date, ça tombe en même temps que la Comic-Con à peu près, donc ça peut être un gros coup de sortir un film comme ça juste avant la Comic-Con de San Diego. Donc,
possible aussi. Bon, de toute façon, d'ici 2016, on a encore le temps de voir venir.
Ou de faire une avant-première d'ailleurs durant la Comic-Con. Ouais. Ce qui n'a jamais été fait, je pense.
Pas ma connaissance. Mais normal, ça leur ferait perdre de l'argent. Et continuons justement sur Marvel qui a invité dans ses bureaux et un éminent acteur
Il est pas
bien
mauvais,
connu.
Hein.
Oui, c'est vrai. Il a vraiment amélioré son jeu ces dernières années quand même, comparé à ce que c'était au départ. Vin Diesel qui est donc allé chez Marvel Studios pour un rendez-vous et selon ce qu'il déclarait avant ce rendez-vous, il ne savait même pas pourquoi il était invité.
D'accord.
Étonnant. Le logique, enfin, je sais pas quelles sont vos réactions.
Triple X, il va jouer le Punisher, je sais pas.
Non, mais il aurait fait un bon Drax, mais comme ils ont pris quelqu'un d'autre.
Ils ont pris Batista, qui est aussi pour le rôle, c'est bon quoi. Mais par contre, je sais pas, la question c'est qui pourrait-il jouer justement. Alors, un grand mec baraqué, Vin Diesel en Galactus.
Il va jouer Puck.
Non, mais ouais, je sais pas moi. Ils ont pas déjà donné le rôle de Ronan The Accuser à quelqu'un, je sais plus, pour les gardiens ou un truc comme ça.
Effectivement, tu disais, Kevin, il y a aussi ça peut très bien être un acteur, du CGI, voilà, quelqu'un qui est là juste pour l'animation et qu'on ne verra pas, qui sert juste
à faire. Ronan pour Vin Diesel, mais bon. C'est
bien. Ou bien alors, ils vont nous sortir le Red Hulk.
Non, mais c'est que, en fait, ils veulent introduire Riddick dans l'univers Marvel, comme Angela, en fait.
Ils vont faire un crossover avec Fast and Furious.
Ouais. Ou alors.
Mais je verrais plus un crossover Fast and Furious Transformers, moi, perso. Mais...
Ouais, Wolverine dans une voiture qui se transforme, c'est vachement bien.
C'est bon, nous, on refait toutes les continuités, il n'y a pas de souci.
Non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, depuis Age of Ultron, on a le droit.
Bah oui, bien sûr, c'est vrai.
Voilà, c'est la porte ouverte à toutes les continuités par toutes les fenêtres, voilà. Ça veut rien dire.
Ouais, absolument rien. Bon bah on verra ce que ça va donner. En tout cas pour le moment j'ai pas réussi à trouver d'infos supplémentaires concernant cette réunion.
C'était top secret ce qu'ils se sont dit.
Bah, de toute façon comme d'habitude ils ont dû sûrement lui faire signer un petit contrat de
confidentialité.
Merci, voilà, c'est ça. Oh, j'avais trop de mal. Oh putain. Ça va être dur jusqu'à la fin. Continuons sur maintenant la TV. Parlons de The Six Guns. Six Guns qui avait été refusé par NBC après avoir vu le pilote. Ils ont décidé de ne pas continuer le projet. Cullen Bunn était bien sûr un petit peu déçu. Mais il a annoncé une interview à Newsarama cette semaine que le projet n'était peut-être pas complètement mort puisqu'il intéressait d'autres networks.
Parce bah, que... Oui, oui, on imaginait bien qu'il y a, que le câble allait s'y intéresser parce que c'est un pitch quand même vachement intéressant. Enfin...
Bah, perso, je verrais plus ça sur une chaîne du câble. Hein.
Ouais, ouais,
c'est plutôt que sur une chaîne comme NBC, surtout qu'NBC est quand même en tellement de pertes de croissance ces dernières années. Quand ils font 7 millions, les mecs, ils sont heureux, ils sablent le champagne. Quand tu vois les canons de la CBS ou de la Fox qui tapent dans les 15 ou 20 millions, bah, ça fait pitié pour eux, quoi.
Ouais, le pitch est peut-être pas... Enfin, je le voyais pas sur un network, en fait.
Bah,
pitch tu... même le pitch quoi. C'est assez barré, quand même.
Bah oui, voilà, un peu trop, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez déjà? Est-ce que c'est une série que vous lisez peut-être, The Six Gun? Non.
C'est pas une série que je lis, non. Je connais le pitch, mais. Non, je la lis pas. Mais on m'en dit toujours beaucoup, beaucoup de bien. Donc ouais, c'est à mon avis intéressant quand même.
Voilà. Bon, bah, sinon, bah, pas grande news hein, pour le moment. En tout cas, elle était relativement contente de ce qu'il a pu voir. Quand il a assisté au pilote, même si c'était apparemment très différent de ce qu'il a écrit. Reste à voir bah, si on verra ça un jour, peut-être que le pilote fuitera, un peu comme le fameux pilote d'Aquaman qui avait fuité à l'époque de la CW quand il voulait faire une série Aquaman.
Jim Rhodes avait fuité?
Non, Aquaman. Pourquoi tu parles de Jim Rhodes?
Mais en plus, je sais pas pourquoi, j'ai compris le pilote d'Iron Man. Bon, bah,
non, d'Aquaman.
Van super foireuse, du coup.
Ah ouais, là, c'est vraiment tout.
Complètement. Continuons. Continuons avec Orson Scott Card, qui est définitivement persona non grata à la Comic-Con, ainsi que pour la tournée de promotion de Ender's Game, le prochain film adapté de son œuvre littéraire. Puisque, bah, voilà, les dates ont été annoncées, les événements ont été annoncés, et il n'en fait pas partie.
Ouais. Bah oui, je pense que la production du film n'a pas voulu s'attirer les foudres des lecteurs comics, des geeks, etc., qui s'étaient un petit peu manifestés.
Je pense que, oui, je sais pas si c'est forcément... si c'est forcément utile, parce que honnêtement, Orson Scott Card, bon bah je le verrai en convention, je lui jetterai pas des tomates pour autant, quoi. Enfin, je veux dire, bon, voilà, faut faire la part des choses aussi, quoi. Le mec, ouais, s'il vient juste nous parler de ses œuvres, il a le droit. Enfin, voilà, du moment qu'il commence pas à parler politique ou qu'il commence à avoir des propos un peu déplacés, je veux dire, il y a pas lieu de le.
Bah, peut-être qu'ils avaient pas que ça arrive, parce que bon, le mec est quand même très très. Très très engagé quoi dans sa cause. Il
oui,
a pas bah, de la cuillère.
Après s'il est pas capable de réfréner ses pulsions et d'avoir des discours en public qui sont assez litigieux effectivement, mais bon si le mec s'en tient à son boulot de scénariste et qui te parle uniquement de son travail, je trouve ça un peu dommage là c'est de la censure quoi, pure et simple du coup.
Non mais de toute manière le studio a acheté les droits du bouquin, bon bah ils peuvent très bien choisir de pas lui donner la parole.
C'est vrai. C'est vrai.
Après tout. Bon. On a vu avec plein dans l'histoire du cinéma que quand les auteurs se mêlaient d'adaptations cinématographiques, que ce soit en tant que producteur ou consultant ou quoi, c'était pas toujours très très bon quoi. On a vu, il y a eu Michael Crichton avec John McTiernan sur le 13e guerrier, il y a eu plein de choses comme ça.
Parlons du 13e guerrier, ouais.
C'est plein de choses qui
dommage parce que c'est une si bonne histoire.
C'est un peu compliqué. Bref, oui. Mais apparemment, John McTiernan a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à le faire, ce film.
Ouais. Et quand on pense manque, je sais plus, je crois que c'est 45 minutes ou un truc comme ça du film.
Oui, oui. Il y a toujours une director's cut qui est censée exister, mais qui est jamais sortie. Mais
malheureusement, ouais.
Parce que je pense que c'est un bon film au final.
Kevin, tu as envie de réagir peut-être sur cette histoire Orson Scott Card, pardon.
Comme disait Flo, après, s'il n'est pas convié, c'est pas non plus révoltant. Après, s'il a envie de parler de l'adaptation du film, qu'il le laisse faire, c'est pas non plus... je trouve que ça a des proportions assez démesurées à faire autour de Orson Scott Card. Voilà, là, c'est son bouquin, hein, s'il a envie de parler de l'adaptation, il peut en parler. Qu'il soit pas convié au panel, etc., ou à la promo, c'est ce que je comprends, pour les débordements, mais que là, on empêche de parler de l'adaptation, mais ce serait un peu exagéré, je pense.
Non, c'est surtout C'est oui, c'est juste qu'il a pas été invité. On sait voilà, pas. Si ça se trouve, ils avaient déjà pas prévu à la base d'inviter l'auteur, même si c'est un auteur de best-seller, je sais pas. Enfin, bon,
ce qui en soit, c'est pas révoltant.
On suppute quoi. Mais bon.
Alors, rappelons que son histoire d'Adventures of Superman, cette série qui est d'abord digitale puis imprimée, l'histoire qu'il devait faire, donc dessinée par Chris Prowse, qui s'est depuis retiré du projet, est toujours repoussée et n'a pour le moment pas de dessinateur et on ne sait pas si elle sortira un jour. Le pauvre a vraiment du mal en ce moment. Allez, on va terminer par quelque chose d'assez étrange. Une adaptation de La cabane dans les bois. C'était ça le titre français?
Ouais, Cabin in the Woods, ouais. De... Je sais plus qui, d'ailleurs.
Drew Goddard et Joss Whedon.
Ah, voilà. Et donc, qui sera une attraction au parc Universal.
Ouais, mais ça, ça déchire. Parce que c'est vraiment un film qui s'y prête pour faire vraiment une sorte de maison hantée moderne. A priori, ils vont reproduire la cabane au milieu d'une grande forêt. Il faudra traverser la forêt et après, une fois que tu seras dans la cabane, tu pourras même aller sous le sol dans la zone en fait.
Attention, attention, pas de spoil pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. C'est
bon, ben voilà. Mais a priori, il y aura des acteurs en plus qui seront grimés dans les personnages un petit peu horrifiques qu'on voit dans le film. Ce qui fait que ça pourra faire des choses assez sympas avec des scènes du film qui sont reproduites carrément. Moi, j'ai adoré ce film avec vraiment ce climax qui est peut-être un des meilleurs climax dans un film de genre que voilà. J'avais vraiment beaucoup aimé et dans un parc d'attractions, ça pourrait être cool. Quoi.
Malheureusement, c'est Universal Studios. Alors Hollywood ou Orlando du coup
Orlando.
Orlando.
Ouais. Bah d'ailleurs, il est mieux en fait. Enfin, il est mieux. D'un point de vue parc d'attractions, il est mieux, même si les vrais studios sont à Hollywood. Orlando, c'est vrai qu'il y a plus de choses quoi. Le parc est plus étendu. Mais bon, dommage, on n'aura pas ça en France puisque nous n'avons pas le studio Universal.
Alors, a priori, c'est un truc qui sera temporaire puisqu'ils indiquent des dates du 20 septembre au 2 novembre.
Et ce ne sera pas tous les soirs non plus.
Ouais.
Ah putain, c'est super.
Si ça se trouve, c'est quelque chose qui pourra être transporté et peut-être amené ailleurs.
Bah oui, d'accord, mais de toute façon, en France, on n'a pas le.
Ouais. Vas-y.
Non, mais oui, en France, on n'a pas l'homologue quoi.
Non, il n'y a pas d'homologue.
Mais surtout quand tu vois la taille, je pense, du truc, enfin la machinerie, que ça va,
ouais, ça doit être
ça va nécessiter. Je suis pas sûr que ça puisse bouger, quoi. Mais c'est pour ça que c'est étonnant que ce soit temporaire.
Mais je crois le problème, c'est que le seul parc qui pourrait s'y prêter en termes d'attraction de ce type-là, c'est le Futuroscope. Mais le Futuroscope, c'est pas non plus un parc à thème horrifique, ouais. Donc.
Ouais. Non, mais le truc aussi, c'est que c'est au fait que, parce que c'est des acteurs, comme tu l'as dit, donc à mon avis. C'est comme s'ils étaient en représentation et voilà, donc ils vont le faire.
Là, c'est clairement pour préparer Halloween quoi, qu'ils ont fait ça. Donc, puisque ça s'arrête le 2 novembre, donc juste après Halloween.
Ce qui serait excellent, c'est une attraction du même genre avec Evil Dead quoi, sur le thème d'Evil Dead, ça serait énorme.
Bon, avec Cabin in the Woods, on n'est pas loin quand même.
C'est vrai, on n'est pas loin. Mais bon, c'est pas pareil.
Bah voilà, c'est tout pour notre partie ciné TV. On va passer très vite à la partie jeux vidéo puisque une interview d'un des responsables de Batman Arkham Origins, le prochain gros jeu sur Batman qui sortira le 25 octobre, a annoncé cette semaine qu'il y aurait pas mal de surprises à venir tout au long du scénario du jeu et de très bonnes surprises pour les fans de comics en général et de Batman.
Ouais, un jeu que j'attends, mais même si bon. Voilà, moins excité qu'à la sortie de Batman Arkham City, puisque ça a l'air d'être quand même très très proche. Par contre, le côté surprise pour les fans, c'est parce qu'a priori, il y aura 8 assassins qui seront à la poursuite de Batman, 8 personnages majeurs de l'univers DC. Ils ont déjà annoncé Deadshot, Deathstroke, je crois une version jeune de Bane.
On les voit dans le trailer, hein, notamment Deadshot et Deathstroke.
On voit aussi des images d'Anarchy, mais après il reste 4 personnages encore à montrer. Peut-être des personnages.
À mon avis, ils vont mettre un Ergo à mon avis aussi.
Ah, je pense pas parce que ça se passe au tout début, au début de Batman en fait. Puis c'est pas vraiment la même continuité que dans les New 52.
Justement.
Oui, pourquoi pas.
Ils peuvent se permettre.
Ça pourrait être rigolo, effectivement.
Ça serait rigolo, ouais, d'introduire la Court of Owls dans les jeux vidéo.
Quelque chose qui vous plairait à jouer, Flo, Kevin,
Ah carrément.
Je les ai sur Steam, mais j'ai pas encore commencé.
Moi, je viens de me mettre au premier là. Je m'y suis mis la semaine dernière.
Le premier est excellent.
J'ai joué, je sais pas, 2 heures, un truc comme ça. Donc, je suis vraiment trop au début du jeu pour pouvoir en parler.
Ouais, c'est très bien, mais bon, ça a encore fait ressemblant, c'est le troisième volet, il n'y a pas beaucoup de...
d'innovation. Bah, il y avait une grosse innovation entre le premier et le second, par contre.
Ouais, mais sur le 3, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de choses. Enfin, on verra bien. Mais...
Sera-t-il en open world en 1080p et à 60 fps?
Ouais, mais tu vois, le côté open world d'Arkham City,
Chinois, pour ça, hein.
C'était sympa, mais au final, j'ai préféré quand même la narration dans Arkham Asylum, qui était, je trouvais, mieux construit, mais bon.
Très bien. Eh bien, c'est tout pour notre partie jeux vidéo. On va passer maintenant au gros sujet de la semaine. Le gros sujet de la semaine, c'est Vertigo, qui est le
ils sont pas morts, je vous l'avais dit.
En ce moment. Dernier sursaut de la bête, moi je persiste.
Mais non, ils sont pas morts.
Vertigo, donc, qui a annoncé pas mal de nouveaux projets. Et bah, l'un de vous va nous en parler, puisque moi j'ai la flemme. Non, parce que j'ai pas lu l'article, c'est tout.
Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a
du lourd.
Il y a donc le fameux
préquel.
Préquel de Sandman qui commence avec The Sandman Overture numéro 1.
Oui, enfin ça c'était teasé déjà depuis plus de 6 mois.
Voilà, mais on a le vrai titre maintenant, le titre final. Ouais, Sandman Overture.
On sait ce que c'est. Avec des couvertures absolument incroyables. Donc c'est écrit par Neil Gaiman et dessiné par J.H. Williams. On a quoi d'autre? On a le projet de Peter Milligan, The Discipline,
ouais.
Qui sera dessiné par
Léo Fernandez,
qu'on a pu voir sur du Wolverine de Greg Rucka, sur du X-Men Origins Deadpool. Et deux, trois autres trucs, mais qui est pas un artiste très connu. Enfin, j'ai pas trouvé grand chose sur cet artiste.
Ouais, et puis en l'occurrence, ce sera un thriller érotique.
Ouais, ça a l'air vachement voilà. Bien. Et il nous en avait parlé un petit peu.
Il suffit de dire érotique et Bruno se réveille.
Non, mais oui, bah oui. Mais ça a l'air d'être une sorte de mix un peu entre Fatal, un truc un peu érotique avec des rituels, des choses bizarres et. En tout cas, Peter Milligan était très excité quand il en a parlé un peu au LCF.
Du sadomasochisme, du bondage, voilà. Du FF. Ah,
Bruno, je le vois trop finalement là d'un seul coup jouer dans les productions érotiques, tu sais que tu voyais sur M6 et compagnie. Là.
Vous fermez c'est,
d'un
vos
seul
gueules,
coup, d'un seul coup, je l'imagine trop là-dedans. Et si ça tombe, il a joué dedans. On va le retrouver un jour. Je le vois trop. Et, là,
Steve,
c'est, avec un petit café.
T'as pas encore placé les productions vivides. Je suis déçu.
Non, pas encore, mais l'émission n'est pas terminée.
D'accord.
Je vous réserve un autre gros sujet
pour ton chèque et puis ta livraison de DVD que tu reçois.
D'ailleurs, ça s'appellera pas le gros sujet, mais le gros paquet cette fois-ci.
Alors, il y a un spin-off à Sandman aussi. Faudrait peut-être le dire justement, Dead Boy Detectives.
Ouais.
Alors, juste sur deux disciplines, ça arrive en décembre. Voilà, pour qu'on puisse tourner la page et passer à autre chose. Voilà, ouais. Ça arrivera en décembre. Continuons.
Bah là, en l'occurrence. En novembre, du coup, un peu plus tôt, Dead Boys Detectives. Alors, est-ce que quelqu'un a les crédits?
Alors, c'est écrit par
artistes.
Toby Leitt, qui est un écrivain de romans, et des dessins et des peintures de Mark Buckingham. Et ça, c'est un titre qui a été teasé dans les deux anthologies Vertigo qui sont sorties récemment. Qui était Ghosts et l'autre qui était Time Warp. Dans lesquels on avait déjà un petit prologue à cette future série Dead Boy Detectives, et ça a l'air assez sympa.
Ok. Bon. Essentiellement pour les fans de Sandman, vu que c'est très lié, quoi.
Oh, je pense que tu peux lire si t'as jamais lu Sandman.
Bah ouais, ce que j'ai lu dans les one-shots là de Vertigo, c'est qu'il y avait pas vraiment de lien avec Sandman, donc.
D'accord.
Okay. Ensuite, il y a quand même un gros truc
ouais,
que moi j'attends vraiment. C'est le retour de Liber Mero en tant qu'auteur et au dessin pour un projet qui s'appelle Suiciders, qui sera un ongoing et pas une mini. Et ça, j'attends avec grande impatience puisque son premier récit en tant qu'auteur, c'était Batman Noël et c'était quand même vachement bien.
Ouais. Pas très convaincu par le scénario quand même pour Batman.
J'ai trouvé ça très très cool comme réécriture du conte de Scrooge.
Pareil.
Ça très très sympa.
Ouais, mais bon.
Mais là, le pitch de Suiciders a l'air assez sympa quand même.
Mais parle-nous-en.
Donc, c'est a priori, ce sera une histoire futuristique où l'histoire de deux boxeurs un qui est peut-être le meilleur boxeur du monde et l'autre qui essaye de justement le devenir. Et ça se passe à Los Angeles après The Big One, donc ce fameux tremblement de terre qui aurait détruit une partie des États-Unis. Et donc il y aura un côté un peu futuristique, il y aura de la baston.
Futuriste, parce que ça fait deux fois que tu dis futuristique.
Et... ouais, tu vois, c'est voilà. Mais ça, le pitch a l'air cool, quoi.
Très bien.
On a aussi Coffin Hill, une ongoing qui sera dessinée par Inaki Miranda, qui a dessiné Ferrust, une mini de Ferrust que je ne lis pas, mais on peut me confirmer. Quelqu'un lit Ferrust?
Enfin, Ferrust est un ongoing, mais ça va être un des arcs, je pense.
C'est peut-être un des arcs de Ferrust, ouais.
L'arc de The Hidden Kingdom, pour ceux qui
tout à fait.
Qui veulent.
Et c'est écrit par Caitlin Kittredge, que je ne connais absolument pas. Je sais pas si vous avez.
Apparemment, c'est une auteure de fantasy.
D'accord. Et donc, on suit un personnage qui s'appelle féminin, qui s'appelle F. Coffin. c'est un nom un peu curieux, qui a 15 ans et qui a un peu trop joué visiblement avec les esprits et les sorcières, et qui réveille des puissances un peu sombres qui étaient enterrées depuis le procès des fameuses sorcières de Salem. Mmh. Donc une série un peu effectivement pleine de
ésotérique,
de magie, un peu ésotérique, voilà. Donc un projet un peu curieux.
Ça démarre en octobre.
Par des artistes, donc c'est exclusivement féminin, c'est ça?
Ouais.
Ouais, une équipe féminine. Mmh. Ouais, ouais.
D'accord.
Et ensuite une autre anthologie, donc après Ghost, c'est Time Warp, qui s'appelle The Witching Hour, avec des récits justement sur un petit peu les sorcières. Et on nous a un petit peu teasé le roster. Il y aura du Kelly Sue DeConnick, du Cliff Chang, du Lauren Books, de Emily Carroll, du Matthew Sturgis, Sean McManus et Tula Lotte.
Oui, c'est un retour au fait de The Witching Hour, puisque ça existait déjà il y a un petit paquet de temps. En fait, c'est des anthologies, c'est des histoires courtes, il me semble.
Exactement.
Voilà,
je ne connaissais pas cette anthologie.
Un petit peu à la Tales from the Crypt, mais en. Enfin, si, ouais, un petit peu à la Tales from the Crypt.
Il y avait Witching Hour, il y avait House of Mystery, voilà, ouais. C'était ces séries-là dans les années 60-70.
Ouais, ouais.
Il n'y avait pas aussi le Witching Hour avec Jeff Lobb et les Vampires.
Bah, si, c'est justement celui-là auquel je pensais, justement.
Ouais, moi aussi.
Qui est très beau, d'ailleurs.
C'est sorti, en fait.
Ça me dit rien du tout, cette série, par contre, moi.
C'était une histoire complète en un tome.
Ah ouais.
Ouais, j'en ai entendu parler justement et je comprenais pas parce que ça reprenait ce titre-là, mais ça avait,
ouais,
mais c'est, ça avait l'air d'avoir aucun rapport justement.
Ouais, je viens de vérifier, c'était une mini-série sortie chez Vertigo aussi qui avait repris ce nom également en rapport avec cette vieille série des années 70.
Parce que je me rappelle que chez Aredi Artima, je crois que c'était ça, ils avaient sorti Minuit, l'heure des sorcières en français, puis j'en avais dévoré quand j'étais petit, c'était vraiment bien quoi. C'était
bon.
Oui, c'est ce que j'ai dit. C'était vraiment bon. Oui, non, c'était vraiment bon. Un goût de papier un peu périmé, mais bon, ça va quoi. C'était pas trop moisi encore.
Ah, et on a oublié le Humterkind, une série de un petit peu de fantasy post-apocalyptique dans un monde post-apocalyptique, écrit par Ian Edgington et dessiné par Francesco Trifogli.
C'est bizarre parce que moi j'ai. The Interland en titre.
Bah moi aussi j'ai Interkind, mais
Interkind, ouais.
Interkind. D'accord. Interkind, bon. Ce qui a été annoncé par.
D'accord. Par c'est une erreur de.
Donc le post-apocalyptique est encore à la mode. Hein.
Et sinon, disons aussi que American Vampire revient en décembre. Je confirme.
Oui, ça c'était bien prévu. Hein, que la série n'était juste qu'en hiatus.
Sans compter Trillium et tout qui commence en septembre. Donc non, il y a du lourd hein, chez Vertigo.
Ouais, c'est annoncé, en moi tout cas. Je suis très c'est bien.
On sait pas ce que ça va valoir, mais
oui, mais au moins on sent que Shelley Bond, la nouvelle éditrice en chef et ancienne assistante de Karen Berger se bouge quoi. C'est moi je trouve ça positif, ça se bouge bien pour la rentrée.
Ouais, voilà. Puis, bon, ça revient. Non, mais je suis d'accord avec ce que disait Bruno quand je disais que ça allait disparaître. Non, bon, il semblerait que ça revienne.
Ils ont récupéré Astro City aussi, donc il y a aussi des ongoing, donc.
Avec un premier numéro d'Astro City que j'ai trouvé génial.
Mais à mon avis, ils reviennent un petit peu en arrière, puisqu'ils s'aperçoivent que les New 52 se cassent complètement la gueule, donc Vertigo n'est pas mort.
Franchement, les New 52, ils ont quand même remonté un peu la pente en juin.
Moi je me suis rendu compte de rien. Enfin bon, en même temps, voilà.
On parlera des chiffres sûrement la semaine prochaine, puisque là les chiffres sont pas encore complets.
Les New 52 n'auront pas d'incidence sur Vertigo. Vertigo restera toujours Vertigo. Un marché beaucoup plus faible, quoi. Mais à mon avis, ils ont pas de grosses espérances. Je pense que Shelley Bond a peut-être convaincu les pontes de DC et les Dan Didio et compagnie qu'il fallait peut-être un petit peu lâcher un peu de lest et donner sa chance à des choses, ouais. Et pas voilà.
Bah, il était un peu temps, hein. Il y avait excuse-moi hein, Kevin, je termine juste.
Ouais,
il restait quand même très peu de séries régulières, Fable, Ferrust et Unwritten. Puisqu'American Vampire est pour le moment en pause. Donc trois séries régulières pour un label aussi gros que Vertigo, c'est quand même vraiment ridicule, quoi.
Ouais. Et puis je pense que Shelley Bond a aussi des plans pour réattirer chez Vertigo des auteurs un peu plus connus.
Bah, qui sont tous barrés chez Image, disons-le.
Exactement.
Chez Image pour des raisons de contrat. Hein. C'est pas parce que d'un seul coup ils ont adoré Todd McFarlane. Non, mais c'est parce qu'ils ont une totale liberté chez Image. Et voilà.
Je pense tout simplement que DC va revenir exactement à l'état dans lequel il était il y a quelques années. En quelques mois, là, ça y est. C'est fini, quoi. Le petit sursaut, là, ça a juste duré un an et puis c'est tout.
Kevin, justement, ta réaction sur tout ce retour de Vertigo ?
Ce que je voulais dire, c'est qu'on voit aussi qu'ils repartent un peu sur les recettes qui marchent, ils font appel aux anglais, comme au départ, quoi. Il y a Yann Emington, c'est un auteur de 2000 années quand même.
Bah, beaucoup d'auteurs sont des auteurs anglais, hein, dans tout ce qui est en
le King Gallen, il relance aussi, bon, le Sandman, c'est longtemps que ça a avancé, mais ça revient quand même. Donc c'est vraiment la vague anglaise, quoi.
Ouais.
Troisième partie.
De toute manière, ils auraient pas pu se permettre de ne sortir que le préquel de Sandman. Une telle vague... Enfin, une telle annonce sans rien derrière et sans essayer de pousser d'autres titres derrière, ça aurait été ridicule. Enfin, ça aurait été une erreur commerciale incroyable de sortir uniquement le préquel de Sandman. Moi, je croyais pas à juste ça. C'était pas possible qu'il tourne juste avec ça.
Il faut dire qu'avec The Way, il commençait bien aussi, puisque ça a quand même un sacré succès.
Ouais. J'ai pas les chiffres. On n'a pas les chiffres de vente. Bah non, on n'a pas.
On les aura bientôt là.
En tout cas, le premier print était sold out, donc.
Ouais, bah ouais. Non, moi je le sens bien. Moi, je suis plutôt content pour Vertigo. Je vous dis, hein, ça fait un an que j'ai des comics et sur mes trois étagères de TP, j'en ai. Enfin, la seule.
Bon,
qui
on s'en
pleine,
fout.
C'est,
allez, on
c'est celle chez Vertigo. C'est celle chez Vertigo avec que des tous les gros chefs-d'œuvre de chez Vertigo. Et ça, c'est ce qui m'a construit ma culture comics, en tout cas, ma jeune culture comics. Et je suis très content que ça revienne.
Ça donne le vertige, tout ça. Allez.
Ouais. Oh putain.
Oh là là.
C'est beau.
Surtout quand tu te mets en haut de ton étagère.
Qu'est-ce que c'est
beau. Mais c'était pas la peine d'en rajouter, en fait. Hein. C'est... La vanne était déjà bien pourrave d'entrée, si. C'était pas la peine de rajouter un truc. Ouais, donc du coup, moi, je reste quand même un peu sur la réserve. J'attends de voir si ces projets vont bien prendre. Parce que c'est aussi le problème de Vertigo, c'est qu'on a eu des projets qui ne marchaient pas et des séries qui s'arrêtaient relativement vite. Il y a eu quelques expériences comme ça faites il y a quelques années, hein, des séries qui n'ont pas trouvé leur public. Je pense assez récemment à des séries comme Unmen, comme Greek Street.
Ah, Zombie ? Ouais, Greek Street de Milligan, hein, oui, mais il paraît que c'était pas top.
Ah oui, non, mais enfin, peu importe la qualité, je veux dire, ce sont des choses qui n'ont pas pris, donc il y a quand même eu quelques ratés, quoi.
Non, il y a des choses au niveau de la politique, voilà, de laisser sa chance au produit. Karen Berger, à mon avis, laissait sa chance aux auteurs plus longtemps que maintenant les mecs comme Dan Didio. On voit bien Chris Robertson qui a claqué la porte avec iZombie qui a été annulé également. Voilà, ça a été annulé parce que ça vendait pas trop, mais... Dans une autre époque, on aurait laissé le titre continuer un peu et voilà.
iZombie avait quand même atteint les 28 numéros, ce qui est une
28.
Ouais, tant 28. Et ouais, une on va dire une constante hein, chez Vertigo quand même. Les séries étaient annulées aux alentours de 25-30 quoi quand elles étaient annulées.
Enfin, bon, il avait envie d'en faire beaucoup plus. Visiblement, il n'avait pas prévu de finir voilà comme ça. Mais bon.
Ça reste quand même des bonnes nouvelles. Espérons que ça continue comme ça. On va passer à la suite, on va passer à la citation de la semaine. Une citation de Grant Morrison concernant Wonder Woman Earth One.
Oui. Ouais, bah, je peux la faire si vous voulez. Donc Wonder Woman Earth One, ce ne sera pas une histoire de super-héros qui se donne des gros coups de poing dans la gueule. Voilà. Donc,
Très mauvaise imitation, hein. Il parle pas du tout comme ça.
T'as oublié l'accent.
Oui. Ah tiens, en parlant de Grant Morrison, ça n'a rien à voir, mais j'ai vu une vidéo sur internet d'un comic qui a fait un combat Grant Morrison Alan Moore. C'était sur Bleeding Cool. C'était très drôle. Avec des gens en cosplay de Alan Moore et de Grant Morrison. Et je mettrai le lien aussi sur Facebook, mais c'était vraiment très drôle.
T'as d'autres de tour de magie. T'as d'autres anecdotes comme ça?
Non, j'ai rien pour le podcast. Donc, alors, Wonder Woman Earth One, a priori, ce sera beaucoup plus centré sur le côté des Amazones qui ont vécu toutes seules sans hommes pendant 3000 ans, et du coup ce sera vraiment une étude un peu du sexe, des sexes.
Donc, et que justement quand elles vont retrouver des hommes, il va y avoir de l'orgie, parce que là il y a quand même de l'attente, et ça faisait très longtemps que ça n'avait pas marché la chaudière.
A priori, il a beaucoup réfléchi à ce qu'aurait pu donner une civilisation où c'est les femmes qui auraient été toutes seules et tout, et donc il va parler de ça, il va montrer ce qui se passe après quand ils vont être mis au courant qu'il y a aussi des hommes et tout, et voilà. Et a priori, ce sera... J'arrête pas de dire a priori tout le temps, donc je vais arrêter. Mais voilà, il y aura peut-être un peu moins de baston et peut-être un peu plus de réflexion que dans les autres Earth One.
Et donc, ce sera les aventures de Wonder Woman et les Amazones face à une équipe de Ramoneurs. Voilà.
C'est vrai, ça? C'est qu'est-ce que tu racontes?
Non. Je peux dire n'importe quoi, ça marche. Allez, on va passer au bref comics, alors que Benny vient de nous mettre un truc qu'on ne peut pas répéter sur Skype.
Parce que... surtout pas. C'est un truc que tu as dit en même temps, donc voilà, les gens l'auront peut-être entendu comme moi.
Mais... On ne pourra pas le répéter, sinon on risque des problèmes. Passons au bref comics, on va commencer par DC qui a annoncé enfin le remplaçant sur Action Comics, et c'est décidément un homme très occupé, c'est Greg Pak qui va prendre la suite à partir du mois de novembre.
Ouais, c'est bien. Après un bon début, un très bon début sur
Superman.
Sur Batman. Voilà, c'est bien, Greg Pak prend ses marques chez DC, et je suis content qu'ils aient enfin annoncé une équipe. Donc il sera accompagné d'Aaron Cooder, qu'on a vu sur New Guardians, il remplaçait Tyler Kirkham sur New Guardians, et apparemment il a dessiné un peu de Superman.
Ouais, je suis un peu moins convaincu moi par Aaron Cooder, j'aime pas trop son style.
Ouais, c'est pas génialissime, je trouve, mais bon.
Ah, Greg Pak, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que c'est cet auteur dont je parlais il y a quelques temps en disant il a complètement disparu, il était en plein boom chez Marvel il y a quelques années avec Planet Hulk, et puis ça s'était un peu calmé, il faisait de plus en plus de petits projets.
Bah, on lui confiait des projets, soit des petits projets, soit on le laissait dans l'univers Hulk, parce qu'il avait tellement fait bien marcher Hulk qu'on lui a dit bah continue, et on lui donnait rien d'envergure, quoi, finalement. Donc peut-être que là il a trouvé la boîte qui lui fait confiance.
Exactement. Bah, Superman, donc,
ça va dans ce sens-là, c'est une bonne nouvelle, je trouve.
Mmh. Ouais. Non, mais comme tu dis, hein, le scénario était encourageant sur Batman Superman. Et du coup, là, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer sur Action Comics. À mon avis, s'il y a quelqu'un qui peut sauver Superman, ça reste encore un auteur de ce calibre, quoi.
Alors, apparemment, pour sauver Superman, certaines personnes dont on reparlera en fin d'émission lancent des trucs sur Facebook, hein, des gens comme Eric Larsen, qui disent qu'ils ont fait un rêve où ils reprenaient les rênes de Superman, et il y a des commentaires déchaînés qui disaient pitié, laissez-le faire. Des fois, en prêchant le fou, on peut avoir le vrai, hein.
Je te sens
moins convaincu, là.
Ouais, bah Eric Larsen, je trouve qu'il ferait mieux de rester sur son creator owned, à savoir Savage Dragon, parce que il fait toujours du bon boulot dessus, et je trouverais ça dommage de le mettre sur un personnage finalement sur lequel il va reproduire ce qu'il a fait exactement sur Savage Dragon, quoi. À tous les coups, si nous. Oui, mais si on le mettait,
ce serait reprendre Savage Dragon avec Mike Carlin à l'édition, et surtout lui remettre son slip rouge. Ce serait sa seule condition.
Superman,
oui, pas Mike Carlin, on s'en fout.
Mais non, mais t'as dit Savage Dragon, en fait. C'est pour ça que je comprends.
Ah, j'ai dit Savage Dragon, oh pardon.
Ouais, de lui remettre son siffle rouge, donc je comprenais pas pourquoi.
C'est bizarre.
Oui. Du coup, non, mais enfin, moi, ce que je pense, c'est que s'il reprenait Superman, bah, déjà, on aurait une tonne d'histoires où, d'un seul coup, je sais pas, il y aurait le père de Superman qui serait, au fait, vivant et qui viendrait conquérir la Terre, tu vois, un truc à la Savage Dragon. En fait, tout ce qu'il a fait sur Savage Dragon ces dernières années, il le ferait sur Superman. À mon avis, ce serait un truc assez proche, quoi. Donc, je trouverais pas ça forcément très intéressant ni judicieux qui s'active sur ce personnage-là. Bon, je pense que voilà, Greg Pak. En même temps, Greg Pak, il va peut-être nous faire Planète Superman, et puis ce sera exactement la même chose que Planète.
Alors, concernant justement le run de Greg Pak sur Action Comics, il va semer les premières graines de son run dans le Villain Months, notamment les trois qu'il écrit, le Justice League 23.1 Darkseid, le Action Comics 23.2 Zod, et enfin le Batman Superman 3.1 Doomsday.
Ouais, ah oui, d'accord. Okay. C'est les trois big némésis de Superman, donc c'est bien qu'après il enchaîne sur Action Comics. Effectivement.
Voilà, il va semer quelques graines. Alors, est-ce qu'ils seront obligatoires de les lire avant d'attaquer le run de Greg Pak? Je sais pas. En tout cas, ça, vous aurez peut-être déjà.
C'est pas suffisant. Après, il faut arroser, quoi.
Oui, bah oui. C'est une très belle image. Kevin, une petite réaction peut-être par rapport à Greg Pak?
Bah moi, j'attends de voir Greg Pak. Je suis toujours un gros fan de ce qu'il a fait. Voilà, j'ai lu. Non, mais c'est vrai, Greg Pak, je suis pas trop fan, de voir ce qu'il faudra sur Action Comics. C'est vrai que de toute façon, il y aura un peu de background, je sais pas. On verra.
Très bien, on va continuer avec les What's New in the New 52, comme d'habitude, deux par semaine. On nous a teasé cette semaine Ananza, la Spider Queen, qui apparaîtra dans le Animal Man Annual numéro 2.
Ouais, voilà.
Ouais, un design qui m'a laissé totalement froid. On aurait dit plus un ennemi de Swamp Thing qu'un ennemi d'Animal Man, je trouve. Mm. On dirait un côté branche, quoi.
Bah, ouais.
Flo,
un côté branche.
Oui, non, j'ai pas plus que ça. Enfin, je fais confiance à Jeff Lemire.
Elle me fait beaucoup penser à The Stalk dans Saga, en fait, parce que je suis sûr que sous sa robe, il y a des pattes d'araignée.
Ah oui, oui.
En même temps, c'est Spider Queen. Hein.
Bah voilà, mais oui, voilà. Ça, mais du coup, ça fait très penser à The Stalk.
Design de Travel Foreman.
Ça fait toujours le.
Oui, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce personnage, peut-être?
Oui, nom, Ananza, Nancy, bon, enfin, voilà, ils sont pas allés chercher loin, en plus. Hein.
Bah, oui, donc c'est l'annual qui sera dessiné par Travel Foreman, le grand retour de Travel Foreman sur Animal Man. S'il nous fait des trucs aussi fucked up qu'au début d'Animal Man, visuellement, ça peut être pas mal.
Alors, ce n'est pas un nouveau vilain, en revanche, hein, c'est quelqu'un qui avait déjà été introduit dans l'ancien univers, en 95, dans le Animal Man numéro 81. Voilà, pour les gros complétistes.
C'est vrai que maintenant que t'en parles, Florent, je trouve qu'il a un petit côté Fiona Staples dans son dessin, je trouve.
Continuons avec l'autre annonce de la semaine. Bah voilà, personne répond, donc j'avance.
Trickster.
Bah voilà.
Trickster. Donc on sait qui est le méchant de Batman Superman. Donc c'est un nouveau c'est un personnage qui aurait une origine apocalyptienne, qui a l'air de pouvoir jouer sur les réalités. Un design assez classique, mais voilà. Mais en tout cas, le perso a l'air intéressant. Enfin, déjà dans Batman Superman, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Donc,
c'est t'as foutu la trique.
Au moins, là, il est modifié.
Oui, voilà. Et,
par rapport à l'ancienne version.
Ouais, ouais. Et non, j'aime bien.
Et l'autre personnage annoncé, puisqu'il y en a eu trois cette semaine, c'est The Anchoress, qui apparaîtra dans Batman Annual numéro 2.
Et alors, ce perso est vraiment flippant.
Ah, on dirait qu'elle sort de Resident Evil.
Ouais, c'est assez flippant. C'est une jeune femme qui a passé des années à Arkham et qui.
C'est la première pensionnaire, je crois.
C'est la première pensionnaire d'Arkham.
Elle a l'air
un peu flippant. On dirait un zombie un peu. Et elle apparaîtra dans Batman Annual numéro 2, dont je ne connais pas du tout les sollicitations et que j'arrive pas à trouver.
Qui sortira en juillet en tout cas.
Ah ouais?
Ben il est pas sollicité. Hein.
Bah apparemment.
C'est à mon avis, je l'ai pas trouvé dans les sollicitations.
Bizarre, ouais, et ça Steve, me dit rien non plus. Ouais.
Est-ce que tu serais capable de traduire The Anchoress? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire?
Bah, l'encre, mais version féminine, l'encre comme un bateau, quoi.
D'accord.
Mais enfin, moi, je le traduirais comme ça, maintenant.
Ou la présentatrice, non? Ça s'appelle pas encore?
Ça peut aussi se traduire comme ça.
Mais je pense pas que ça n'a rien à voir. Hein.
Non.
J'aime bien la manière de parler de Bruno. Je pense pas que ça n'a rien à voir.
Oh, une petite réaction qui est sur ces deux nouveaux personnages.
Dégommé.
Ouais, comme vous le disiez, le Cyber Forest, c'est vraiment un sens de ça ressemble un peu à... au verbe, ouais, c'est vrai, le verbe humain, là.
Ah, ah oui, oui, la double, la Flockman, là.
Ouais, c'est assez flippant. J'attends de voir aussi le pitch est sympa.
Très bien.
Voilà.
Allez, on passe à la suite. Tony Bédard qui a annoncé donc déjà qu'il ne fait plus de séries régulières actuellement sur l'univers New 52, qui a annoncé qu'il allait traiter les vilains qu'il va scénariser pour le Villain Months, notamment Black Manta ainsi que Ocean Master, comme des personnages un petit peu opposés à des personnages héros, notamment Black Manta. Il voit en Black Manta une opposition totale à Batman. Assez étrange.
Oui, Tony Bédard, de toute manière, faut pas trop l'écouter. Hein. Faut pas trop lire ce qu'il fait non plus.
Tout n'est pas mauvais chez Tony Bédard. Mais non, mais c'est deux personnages charismatiques, enfin deux méchants intéressants. Donc, faudra voir ce que ça va donner dans son Villain Months. Mais
Il dit qu'en tout cas, il est très très fan de l'univers d'Aquaman. C'est son perso préféré et que c'est un truc qu'il avait très envie de faire.
C'est pour ça qu'il co-scénarise deux numéros titrés Aquaman, le Aquaman 23.1 et le 23.2, avec Jeff Jones.
Tout à fait, voilà. Alors de là à dire qu'il reprendra la série Aquaman...
Mais justement, ça a été les spéculations, et il a répondu dans cette interview en disant que non, il n'y avait aucun projet pour lui, en tout cas sur Aquaman, après ses Villain Months. Malgré les rumeurs que tout le monde pensait qu'il allait peut-être reprendre le titre, pour le moment, en tout cas, lui, il le dément totalement.
Mais est-ce qu'il y aura Jim Ross ? Je déconne.
Dans son interview, par contre, il dit que le numéro 1 de Forever Evil sera très important pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe dans le Villain Months. Quoi.
Ouais.
Ce qui est normal.
Oui, ce qui est normal, mais bon.
Mais chaque auteur va nous dire que tel numéro et tel numéro est important, et du coup, quand tu vas les écouter, il faudra tous acheter.
Ouais, bah oui, mais ça, c'est
tout
classique.
Simplement. Classique. Allez, passons à Marvel. Marvel qui a annoncé qu'il y allait avoir un nouveau scénariste sur Superior Spider-Man Team-Up. Oh, news qui a fait pleurer Bruno, j'imagine.
Non, parce que c'est que pour deux numéros et que c'est...
Ah, mais fallait laisser le suspense un petit peu, que les auditeurs aient peur quelques secondes.
Bon, tu sais, il y a que moi qui lis.
je crois que les auditeurs ont déjà assez peur comme ça, de toute façon, à nous entendre.
Non, mais c'est sur un petit arc en deux lié à Infinity, donc on aura Rob Roddy qui est un scénariste que je ne connais pas.
C'est le pseudo de Rob Liefeld en fait.
Peut-être. Il va être content.
Voilà, mais non, mais ça me gêne pas. Voilà, après ça reste un tie-in. Après on aura le scénariste régulier qui reviendra, donc c'est bon quoi.
Continuons avec Infinity justement. Que, comme les news sont bien mises hein, pour faire des super transitions, vous avez vu ça?
Oui.
Infinity, Jonathan Hickman, on a discuté un petit peu cette... Merci, ça me fait toujours plaisir. on a discuté un petit peu dans la dernière conférence de presse qui s'appelle Marvel Next Big Thing. Est-ce que quelqu'un a envie de nous parler de ce qu'a annoncé Jonathan Hickman? Pas tous en même temps,
Il y a un truc qui m'a fait vraiment beaucoup rire. C'est, il a dit oui, il est possible que l'on a sollicité une mini-série en 6 numéros, mais en fait, il faut en acheter 16 pour tout comprendre. Voilà, donc il faut acheter Avengers et New Avengers si on veut tout comprendre, a priori.
Bon, ça, c'est ce qu'ils avaient dit dès le départ.
Hein. Ouais, mais c'est un gros event de la taille à peu près de l'event de Fear Itself, c'est-à-dire au niveau des tie-in et tout, il y aura à peu près autant de numéros que pour l'event Fear Itself, donc c'est quand même assez mouse, on va dire. Dans l'interview, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses intéressantes, mais il a surtout parlé en fait du plaisir qu'il a de travailler avec Opeña, toute l'équipe, puis avec Jim Chung et compagnie.
Le genre de truc qui nous fait une belle jambe quoi quand on lit une interview.
Voilà,
savoir qu'ils sont contents quoi.
A priori, il n'y a pas un lien direct avec le Gant de l'Infini, donc le terme Infinity serait pas relié à ça, mais bon, ça c'est sans doute peut-être un petit peu de langue de bois aussi.
Bah, concernant les artistes, on a surtout la répartition. Opeña fera les séquences dans l'espace, tandis que Justin Weaver fera les séquences sur Terre.
C'est deux très bons, de toute façon. Et puis, ce qui est marrant, c'est que Neil Francis Yu sera sur Avengers, donc pour les numéros. Ou New Avengers, je sais plus lequel est, sur lequel. Mais il y aura.
Il sera sur Avengers, tandis que Deodato sera sur New.
Donc c'est quand même un peu la Dream Team des super beaux dessinateurs de Marvel. Déjà, ça c'est cool.
Ouais, d'accord. Mais par contre, j'ai toujours pas pigé quel était exactement le pitch de Infinity. Est-ce qu'on le sait maintenant plus ou moins
Oui, plus ou moins. Ouais. C'est qu'il y a une grosse menace qui arrive de l'espace, peut-être en lien avec les Builders, quelque chose qui a été teasé depuis le numéro 1 d'Avengers. Et donc les Avengers sont obligés d'aller là-bas pour essayer de régler le problème. Et du coup, Thanos en profite, comme les Avengers sont partis, pour aller conquérir la Terre et peut-être récupérer quelque chose qui recharge depuis très longtemps.
D'accord. Et...
donc sûrement le cube cosmique, quoi.
Voilà. Mais et puis ça va être des personnages qui habituellement n'ont pas l'habitude de se friter à des menaces galactiques qui vont devoir se taper contre Thanos.
Donc notamment les Thunderbolts qu'il... qui sont des street level characters, ce genre de choses là, quoi.
Je pense que Thanos il cherche le ultimate nullifier qui est planqué chez Sam Alexander.
Mais non, c'est il l'a donné
sous son lit.
Peut-être qu'il cherche la mort et la mort est peut-être sur Terre, va savoir sous quelle forme.
Ah,
bon, non, on verra. Les events Marvel comme ça, Kevin, c'est quelque chose qui t'intéresse?
Les events Marvel, je l'arrête de les lire un petit moment en signal au moment où ça sort. Et j'ai fait le début de la vie, je l'arrête directement.
Je croyais que t'allais dire j'ai fait le début de la saga du clone et je me suis lassé.
Non, voilà, dans les events Marvel, moi, c'est ça qui me passe.
Bah, mon dernier event Marvel que j'ai lu en date, hein, c'est Onslaught. je pense que je suis un peu en retard.
Non, ouais, non, c'est vrai que tout ce qui est event et mainstream, bon, je suis pas vraiment en direct, quoi.
Ouais, le TPB.
Sur les séries Vertigo ou 1D ou même sur du 2000 AD, etc.
Non, mais t'as raison. Ah, bah oui, putain, fait, c'est vachement bien, quoi. Judge Dredd, putain, j'arrive même plus à le dire.
Voilà, exactement. Ouais.
J'ai toutes les intégrales. Voilà.
On va continuer juste. Pardon, je coupe, excuse-moi.
Non, mais on discute comme ça entre nous. Tiens, tu veux un petit café, Kevin?
Avec plaisir.
Allez, je te fais ça.
On va rester sur Infinity, justement, puisque Matt Kint a parlé aussi de Infinity The Hunt, qui va sortir en même temps qu'Infinity, qui sera un peu, en tout cas, c'est comme ça qu'il a été comparé, une sorte de Contest of Champions.
Alors moi je connais absolument pas ce vieux truc qui s'appelle Contest of Champions.
Bah, en fait, c'est
tout le monde en a fait un truc avec Matt Kint qui refaisait ça. J'ai rien compris.
Alors, Contest of Champions, c'était une des premières mini-séries avant même Secret Wars. Et
oui voilà, c'est l'ancêtre aussi, de Secret Wars.
C'était aussi une des premières fois où tout le monde se frappait sur la gueule et qui était prévu pour faire une ligne de jouet, tout simplement.
Ouais. Et au fait, finalement, Secret Wars a remporté la timbale. D'ailleurs, tout le monde se rappelle de Secret Wars, mais pas de ce truc-là, là. Et voilà, bah, pas grand-chose à en dire de plus. Hein. Je pense que ça n'aura pas beaucoup d'intérêt dans le Marvel actuel et dans le monde d'aujourd'hui.
Bah, reste à savoir si ce sera vraiment ça ou pas.
Ou bien alors, reste à savoir s'ils vont nous faire des jouets, justement. Peut-être que c'est ça, la manœuvre, en fait. Peut-être simplement pour lancer une nouvelle gamme de jouets, comme à l'époque.
Non, mais ça ressemble un peu à du deathmatch, un peu comme ce qui est chez Boom. C'est-à-dire des combats entre super-héros.
Bien, peut-être qu'ils vont faire un jeu vidéo.
Bah, quand tu vois la couverture du numéro 1, c'est quand même pas les personnages les plus charismatiques de Marvel. Puisqu'on y retrouve, je sais qui, c'est White... Non, c'est Black Panther, Hank Pym, She-Hulk et... je sais plus qui. Je sais pas qui c'est la blondasse avec la tenue
Megan.
Verte. D'accord, voilà. Bah, c'est pas non plus la super Dream Team, quoi.
Ouais, ils vont affronter Big Wheel, Boomerang et Speed Demon.
Non, ça c'est dans Infinity The Heist, l'autre série avec un casting de merde, mais.
Ah non, en plus je déconnais, moi, par contre. Donc si tu me dis que ça existe, c'est quand même le bon pont.
Bref, Infinity donc qui s'annonce bien sur certains points et peut-être vachement moins sur d'autres.
Hein. Bah moi je suis vachement emballé par la mini-série et ce qui se passe dans Avengers et New Avengers, le reste beaucoup moins. À part peut-être Thunderbolt.
Moi je m'en fous comme de ma première, mais tout ce que vous voulez. Hein. Voilà.
Ouais, c'est vrai, je suis un peu je sais pas quoi en penser. Ça sera mon premier vrai event estival Marvel vu que je lisais pas de Marvel quand j'ai commencé les comics et AVX. Bah, je suis passé dessus un peu, bon, voilà.
Avant, sur ces événements estivaux, c'était interview.
Et comme j'ai pas trop accroché au.
Les Jeux sans frontières.
Comme j'ai pas trop accroché au Avengers Hitman, je. Bah, du coup, je suis pas non plus. J'attends pas ça comme le truc du siècle, quoi. Donc, je sais pas. Je vais peut-être me mettre un peu plus à Hitman pour me donner envie de lire ce crossover.
Bien, justement, d'un crossover, on passait à un autre. Celui qui vient de se terminer, Brian Michael Bendis, a réagi aux critiques d'Age of Ultron et Monsieur pleure.
Ouais, enfin, c'est marqué sur le conducteur, Bendis pleure parce que les gens lui chient dessus.
J'aime bien
en même temps, c'est vraiment ça parce que l'interview est assez pathétique, enfin, surtout les réponses de Bendis.
C'est inintéressant surtout.
Ouais, j'ai eu envie de le frapper, moi.
Il fait aucune critique, comment dire. Il prend pas du tout de recul pour essayer de comprendre pourquoi les gens critiquent Age of Ultron. Il fait que râler en disant, de toute façon, c'est Internet, les gens sont jamais contents.
Il parle surtout des gens qui ont pas acheté, hein. Il parle des gens qui l'ont pas lu, qui l'ont pas acheté après.
Alors que moi, quand j'ai lu cette, quand j'ai vu cette interview, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il va revenir un petit peu pour nous expliquer ses choix, pourquoi il a
fait ce que j'espérais aussi.
Non, là, c'était juste, comme tu dis, il pleure parce que les gens lui chient dessus.
Ouais, les gens ont dit, ah là là, c'était pas bien, machin. Et en fait, monsieur n'est pas content. Il dit, oui, mais de toute façon, les gens qui me critiquent, c'est des gens qui disent, on a entendu dire que, et c'est pas des gens qui l'ont lu. Faux.
Ouais. Surtout, il dit qu'il s'en fout, mais bon, il nous fait quand même un paragraphe d'avoir mis dessus.
Ouais. Ouais, faut lui mettre, lui mettre la moitié d'une coquille d'œuf sur la tête et l'appeler Calimero.
C'est ça.
Il dit que les gens pleurent si on fait pas d'event, mais que les gens gueulent si on en fait, et que voilà, que les gens en gros sont jamais contents, et que de toute façon, il est très content de ce qu'il a fait, qu'il ne regrette rien. Et grosso modo, c'est pas dit dans le texte, mais il faut le prendre comme ça, c'est « je vous emmerde ».
Oui, voilà. Et puis si vous avez été déçu d'Age of Ultron, comme nous tous, et que vous attendez avec impatience Battle of the Atom, le prochain crossover X, bah, sachez que Bendis il va faire la même chose et qu'il s'en fout des critiques.
Oui, voilà, et que pareil pour Unger.
J'espère qu'il va pas nous faire un truc aussi pourri, mais voilà.
Unger, au moins, il y a que 4 numéros.
Bendis, oui, c'est Joshua Fakeoff qui écrit, donc ça va.
Bendis, ça a l'air de devenir la grosse pleureuse de chez Marvel, quoi. Ça a l'air d'être son nouveau personnage, au fait.
C'est peut-être Fakeoff qui écrit, mais c'est quand même Bendis qui dirige qui derrière et qui tire les ficelles. Quoi.
Ah, c'est sûr, oui. C'est lui qui a dû décider. Dans le teaser d'Age of Ultron 10, là, le Free Comic Book Day de merde, là, qu'on a lu il y a 3 semaines. c'est quand même le Ultimate Spider-Man qui assiste à l'arrivée de.
Moi j'aurais dit le Unfree Comic Book Day.
C'est ça qui m'a plu après.
Voilà, ah ouais, bah oui, évidemment, mais parce que t'es le seul clampin à lire du Ultimate.
3 pages sur 35, c'est un peu chaud. Quoi.
Et quand même, j'adore les expressions de Florent. C'est le seul qui sort clampin. Et puis, alors attends, qu'est-ce qu'il avait sorti l'autre fois? Un mot.
Margoulin.
Clampin, oui. Margoulin.
On pourrait même faire une vidéo qui s'appelle clampin avec les meilleures expressions de Florent.
Allez, on va passer à la suite, on va passer à l'indé maintenant. Pour les fans de séries télé, eh bien sachez qu'il va y avoir une mini en 6 qui va démarrer en septembre chez Boom Comics sur Sons of Anarchy.
Yeah.
C'est les bikers.
Ça c'était du yeah de biker.
Ce sera écrit par Christopher Golden et ça sera des couvertures de RM Guerra.
Ça c'est cool.
Je cherche le dessinateur Damian Cucchero.
Non, ça colle vachement bien.
Et donc, le pitch se basera plutôt sur la 5e saison. Enfin, ça se passera à peu près pendant la 5e saison.
Ah, j'ai vu que les 4 premières.
Voilà, pareil, donc je vais...
Faut pas que je me spoil, alors.
Bon, bah voilà, une petite licence qui atterrit chez Boom, du coup.
Ouais, bah c'est pas mal. J'irai le feuilleter.
Oh, bah, même plus que petite, parce que quand même, c'est.
Oui, enfin, c'est. Un terme affectif.
Bonne licence, ouais, bonne licence.
Super, hein,
bonne licence. Un gros coup, là, pour Boom.
Donc, ça débarque. Pardon ?
Dick Golden, on a battu des licences, c'est lui qui avait scénarisé les épisodes de Buffy à l'époque.
Oui, c'est vrai.
La première version d'Dark Horse.
C'est vrai. Ouais, j'avais oublié ce détail, effectivement.
C'est monsieur licence.
Continuons avec du merchandising venu tout droit de chez Image, puisque c'est du merchandising à thème Walking Dead.
Ah.
On a un Risk édition Walking Dead.
Oh putain. Ouais.
Au prix de $49.99 quand même. Et puis un Monopoly Walking Dead Survival Edition.
Ah, il n'y avait pas déjà eu un jeu Walking Dead comme ça?
Il y a déjà un vrai jeu de survie, un jeu peu de plateau. Walking Dead, ouais. Mmh. Ouais. Mais le Monopoly, je vois pas trop, quoi. Qu'est-ce qu'on achète?
T'achètes ta liberté, ta vie. Non, je sais pas, t'achètes des îlots de maison.
Ah si, c'est marqué, en plus, il y a tout qui est marqué.
Oui, il y a toute la liste.
T'achètes des blocs de prison, des Woodbury, des routes de Woodbury. C'est un peu nul.
Non, moi je trouve ça vachement fun. Franchement, c'est le genre de petit gadget comme ça, sympa à s'offrir à Noël. Ça coûte pas grand-chose, hein, finalement.
Ça vaut $40.
Ouais, enfin, ça va. Voilà.
Bon, de toute façon, les Monopoly, il y en a tellement d'éditions différentes aux États-Unis, ils adorent ça.
Mais ça change du jeu vidéo. Voilà, un petit Monopoly
en France
entre
aussi.
Potes,
hein, il y a des Monopoly pour chaque ville de France. Presque. Enfin, grande ville. Il n'y en a pas un pour Niort, je crois.
Ouais, bah, en même temps, si on dit grande ville, on parle pas de Niort. Voilà. Bon, ça vous plaît pas ce genre de produit? Est-ce que vous trouvez que Kirkman a vendu son âme au diable?
Non, il a vendu son âme.
Ça fait longtemps. Hein.
Je sais pas comment ça s'appelle, Ravensburger. Non, je sais pas qui fait ces jeux, mais
je n'en ai aucune idée. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas.
Et on va pas chercher. Ça, c'est pas très important.
USA au poli, apparemment.
D'accord.
Voilà.
Bon.
Passons à la suite. Le procès Marvel Gary Friedrich, dont on parlait encore la semaine dernière, a enfin une date pour ce pour cet appel. L'appel commencera le 4 novembre.
Oui. Alors rappelons qu'il avait fait des commissions, surtout de Ghost Rider, et que Marvel lui avait interdit sous prétexte que il peut pas monétiser des personnages qui ne lui appartiennent pas, en fait.
Parce qu'il avait réclamé des droits pour le film Ghost Rider qu'il n'avait pas touché.
Voilà.
Steve, voilà. Il faudrait que tu fasses un jingle pour le procédural de la semaine.
Je pourrais peut-être reprendre celui de Law and Order, ouais. Qui est quand même magnifique. Ce fameux chou-chou.
Et puis en plus, je pense qu'on n'aura pas de droit à payer parce que faut que ça dure moins d'un certain nombre de secondes. Et vu que là, c'est deux secondes, je pense que ça va. On rentre.
Bon, ou au pire, tu le modifies légèrement, puis ça se voit plus. Tu comprends l'esprit,
tu peux
mais...
même le reproduire, tu peux même le reproduire à la main.
Ah non, tu peux pas le reproduire à la main, c'est impossible.
À la main, c'est compliqué.
Ce qu'ils avaient expliqué, que c'était un mélange de 17 sons différents. Ils avaient réussi à faire un mélange de 17 sons différents pour avoir...
Si tu
crois
à la main dans une porte, peut-être que ça marche.
Allez, passons à d'autres news. On en parlait tout à l'heure, Eric Larsen va être présent au Festival Facts de Gand.
Invité d'honneur,
effectivement.
Alors, rappelle ce que c'est que ce festival, parce que...
C'est le festival de comics, en fait, du Benelux, hein, le plus gros, donc qui se déroule en Belgique, à Gand. Mm-hmm. Et ils ont réussi à l'avoir en invité d'honneur.
Et bah, c'est donc, vraiment...
Ma géographie belge est très mauvaise. C'est loin de la France? Enfin, c'est...
Non, c'est pas très loin.
C'est à combien de kilomètres de Lille?
Alors là, je sais rien du tout.
Ah, tu vas nous donner le kilométrage.
Combien d'heures de route
l'itinéraire qu'ils ont futé, s'il te plaît.
De Lille, par exemple.
Non, je pense que ça va être une heure et demie.
D'accord. Okay. Oui, c'est en Flandre.
Voilà.
Parce que il y a l'air d'y avoir pas mal d'invités intéressants quand même aussi. Donc.
Ouais, il y a Didi Gilles qui revient.
Ah oui, bah comment c'est
à Gand. Et après, je sais plus, il y a Emmanuel Papagno, je crois.
Ah oui, ça c'est bien ça.
Il y a Julie Bell, c'est l'actrice de Buffy.
Oh putain,
Alex Maliv.
Julie Ben, c'est là?
Ouais.
Je vais venir, donc.
Sans prendre de gants.
Rappelons aussi qu'elle a joué dans Defiance, hein, actuellement, qu'elle est au casting. Oui, voilà.
Et Machin Family, là, le truc.
Ah oui, le truc.
No Ordinary Family, oui, aussi. Ouais. Mais elle a joué aussi dans Dexter, hein, rappelons-le, quand même.
Elle a joué dans Desperate Housewives
cette semaine.
Et dans Desperate Housewives aussi, ouais.
Et oui, Dexter a repris, j'ai oublié de le dire dans le WhatsApp, d'ailleurs. Voilà.
Quelqu'un qu'il faut pas que je rencontre, sinon je vais lui faire mal, quoi.
C'est externe.
Ouais, je vais lui faire très mal.
Tu vas la faire venir dans ta Benz.
Oh non, t'as pas osé, putain.
En tout cas, ça bougera bien comme dans la Benz, hein, si tu l'as croisé.
Mais le Fax, en général, est un festival où il y a énormément d'invités, hein, chaque année. Et là, Eric Larsen, oui, c'est quand même... Ouais, c'est du gros, quoi. C'est du lourd, ça. À mon avis, ça fait bon pack
d'amis. Tout le monde n'a pas été encore annoncé.
Ouais, je sais pas depuis combien de temps elle est pas venue en France. Je sais même pas s'il est déjà venu en France. Ouais, c'est ça.
La question, c'est est-ce qu'elle aime les frites? Est-ce qu'elle aime les frites, Julie Benz?
Ils sont encore bloqués sur Julie Benz. Bref, de toute façon, le Fax, on vous en reparlera dès qu'on aura un peu plus d'invités. Hein, on vous refera un petit point. Est-ce que tu as la date, par contre, parce que je ne la trouve pas là.
Je crois que c'était 19 et 20 novembre.
Voilà. Bon, de toute façon, on en reparlera d'ici là. Terminons les brèves comics avec Comixology qui a décidé de faire deux petites améliorations sur le Comixology, pas le Comixology français, mais le Comixology international. Vous avez maintenant la possibilité de vous abonner à des séries, ce qui est plutôt intéressant, ça vous évite d'aller les chercher chaque semaine ou chaque mois suivant la fréquence de la sortie. Et puis surtout, ils proposent de faire des bundles de séries. Alors, on prend l'exemple d'Uncanny X-Force de Rick Remender, les 37 épisodes sont proposés à $50, enfin 49,99, ce qui vous représente une économie de 33%, sachant que déjà, sur Comixology, ils sont moins chers puisqu'ils étaient à $1,99 par épisode, puisqu'ils sont déjà sortis depuis un petit moment, et là vous avez encore 33% d'économie. Pour ce lancement, il y a 17 bundles, j'ai pas la liste sous les yeux donc je pourrais pas vous la donner, mais rendez-vous sur le site de Comixology pour pouvoir voir ce qu'il y a de disponible, et ils vont continuer d'en ajouter d'autres, bien évidemment.
D'accord.
Une bonne nouvelle, je trouve, oui. Ce système de...
Pour les lecteurs de digital.
Ouais. Ouais, pour les lecteurs digital, puis voilà, c'est un bon moyen de se faire des trucs à pas très cher, quoi.
C'est bien de commencer aussi à baisser un peu les prix, quoi, oui. Sur le digital, c'est ça qui est bien.
C'est bien, ouais. Effectivement.
Ça prend le bon sens.
On va passer maintenant au badge de la semaine pour conclure cette émission. Le badge de la semaine revient à Benny.
Ouais, alors j'ai regardé enfin Iron Man 3.
Mais ferme ta gueule.
Mais non, pourquoi cette censure, monsieur? Franchement, par rapport à ce que j'avais entendu, en fait, c'est surtout par rapport à tout ce que j'ai entendu sur ce film, comme quoi c'était quand même vraiment pas mal, c'était peut-être le meilleur d'ailleurs d'Iron Man. Honnêtement, c'est le genre de film que, qui est sympa, comme ça, en mangeant une pizza, petit film popcorn, mais sans plus, quoi. Le truc, c'est que c'est trop porté sur le comique de situation. Il y a vraiment des gags quasiment tout le temps, en fait, dans toutes les scènes. Il y a un truc qui m'a fait mourir de rire à propos du mandarin, mais enfin bon, c'est un peu too much, quoi. Moi, ça m'a fait penser limite à Superman 3, qui était vraiment porté sur... on tombait limite dans la parodie. Et là, je trouve qu'on n'est pas loin de ça. Hein. On n'est vraiment pas loin de ça.
Je t'invite à revoir Superman 3, parce que tu t'en souviens peut-être pas.
Justement, en plus, je suis tombé dessus il y a très peu de temps, il est repassé à la télé. Et puis sinon, point de vue action, etc., je trouvais ça pas tellement grandiose, quoi. Finalement, je l'aurais vite oublié, ce Iron Man 3. Même la scène finale est sympa, mais sans plus. On est quand même très très loin d'Avengers, je trouve. Très très loin.
Et pour info, rappel, Benny, c'est celui qui n'aime pas Saga. Voilà.
Oui, mais enfin, alors là, j'assume totalement. D'ailleurs, je suis pas tout seul.
je sais pas, Kevin.
Ouais, moi j'ai bien aimé Iron Man 3, mais comme le dit Johnny, ouais, c'est un film popcorn, c'est pas non plus le film de l'année. Et...
Bah, on reconnaît bien. On reconnaît bien ce qu'avait fait le réalisateur avant avec les armes fatales, quoi. Ce genre de film sympa que tu mates comme ça une fois de temps en temps, mais t'en gardes pas un souvenir impérissable non plus, quoi.
Ouais, voilà. Après, c'est du Robert Downey Jr. qui fait encore...
Ouais,
je trouve que c'est quand même le plus réussi des trois pour ma part, mais...
Moi, je reste quand même attaché au premier, même si, effectivement, il n'était pas sensationnel, quoi.
Mais non, c'est le 2 le meilleur.
Ça allait dans le bon sens. Non, mais écoute, franchement, en voyant le 3, je me suis dit, écoute, on n'est pas si loin du 2, hein, malheureusement. Enfin, ça m'a pas bluffé, j'ai pas eu un énorme coup de cœur non plus, quoi.
Très bien.
C'est l'impression d'avoir pris une pause après les Avengers. Après la surenchère Avengers.
Ouais, mais j'avais pas vraiment envie. J'aurais bien aimé qu'on continue, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi revenir en arrière finalement?
Mais le problème, c'est que je pense qu'ils ont eu peur aussi de vouloir faire plus. Avec un film Iron Man, ça aurait été compliqué, je pense.
Ouais, mais là justement, ils en ont pas fait assez, je pense. Ils auraient pu se permettre plus pour terminer en beauté la trilogie, et là ils se sont un peu retenus, puis ça tombe trop dans l'excès humoristique, enfin c'est à force, voilà quoi, ça devient un limite ridicule.
Est-ce que quelqu'un a un autre bâche pour cette semaine?
Non.
Et bien on va terminer avec notre partie Comics.com, la partie où l'on répond à vos mails. Un premier mail de Marco qui nous dit: salut et félicitations pour votre très long Comics Weekly. J'imagine qu'il doit bien parler du live, effectivement, ouais. 4 heures. Le live arrive, je voulais essayer de le poster aujourd'hui, malheureusement j'ai pas eu le temps. Je vais le poster là dans la semaine de toute façon. La version MP3, la version vidéo est toujours visible sur YouTube. Ouais. Je vous mets un lien très rapidement, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir
le
revoir ou le réécouter.
Sur le site de Comic City, il y a déjà la vidéo. Il y a plus qu'à cliquer pour la voir. Donc.
Ouais, ou au pire, je ferai une intégration avec le code HTML. Je vais me démerder de toute façon. Pas eu le temps aujourd'hui de m'en occuper, malheureusement. Et surtout, hier, il a fallu que je m'occupe de la version MP3 et ça m'a pris, honnêtement, pour la récupérer, la convertir en MP3, etc., ça m'a pris à peu près 3h30, quelque chose comme ça. Ah oui. Plus le upload sur le serveur, puisque, attendez-vous, un gros fichier, il fait 225 mégas. Non, 215. 215.
Avec 4 heures de podcast.
Ouais, j'ai pas eu le courage de le couper en deux. Allez, continuons le mail de Marco. Il dit d'ailleurs concernant ce dernier podcast, on peut voir une jolie collection de box de rangement derrière Bunny. Perso, je galère pour trouver, pour en trouver et ranger mes comics. Donc, si vous aviez une adresse utile,
tout bon comic shop, on aura.
Ouais, bah moi c'est, en fait ça dépend des périodes. Je sais qu'il y a des périodes où il en a plus du tout des box, mais moi j'en avais pris une grande quantité d'un seul coup, quoi. J'avais pris genre une dizaine de boîtes. Alors elles sont pas montées, quoi. Elles sont, enfin c'est toi-même qui les fait tes boîtes ensuite. Mais c'est très simple, hein. De toute façon, franchement les
oui, c'est juste du pliage, quoi.
Oui, enfin voilà, c'est très 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 simple. Mais enfin, ça dépend des périodes. Voilà, il y a des périodes où ils sont en pénurie aussi de pochettes plastifiées pour les comics. Donc,
tu m'en parlais récemment, Bruno. Ouais.
Ouais, chez nous actuellement, Apples Bordeaux, on est un peu en pénurie. On essaye d'en avoir, mais ça fait un mois et demi qu'on les reçoit soit au compte-gouttes, soit on en a pas du tout. Donc moi, c'est pareil. Hein, j'attends qu'on les reçoive.
Mais j'aimerais bien refaire un petit peu de pub justement pour l'aider aussi à mon comic shop, donc librairie de Coninck dans le 15e, parce que je tiens à préciser que le mec quand même met tous ses comics sous pochette. Donc c'est quand même un effort particulier que tout le monde ne fait pas. Voilà. Donc du coup quand
il y en a chez Apocalypse à Paris aussi, ils en ont reçu il y a quelques semaines.
Une petite adresse peut-être
qui est Je pense que c'est sur le net, oui. On avait acheté sur internet à
l'époque. Bien sûr, oui, ça va pouvoir se trouver. Les box et puis les. Oui, les box et puis les pochettes, tout se trouve sur le net.
Mais là, par contre, je n'ai pas de site à donner, j'ai pas d'adresse qui me vienne en tête, là, comme ça.
Mais celui sur lequel j'ai trouvé, je crois qu'il a fermé. Mais à mon avis, ça doit se trouver, forcément.
Et continuons avec le mail de Marco qui nous dit: deuxième question, j'ai eu l'agréable surprise de tomber sur un numéro de Man of Steel de Byrne dans l'édition Earth One chez Urban. Est-ce qu'on a déjà eu droit à une partie de son run en VF et tant qu'à faire, qu'il soit encore accessible? De même pour les arcs d'Alan Moore sur Superman. Merci la Comic Squad et bonne continuation. Alors après quelques petites recherches, Panini en avait publié quelques-uns, que ce soit d'Alan Moore ou John Byrne. On va commencer par John Byrne parce que c'était la première question. Panini a sorti deux anthologies qui s'appelaient Superman l'homme d'acier, pardon, dans la collection DC Anthologie chez Panini. C'est sorti en 2006 et 2007.
Ouais, je crois que ça reprenait la mini Man of Steel, hein, il me semble.
Le premier numéro reprenait la mini Man of Steel, effectivement, pour 20€. Il y avait les 6 épisodes. Et pour 23€, le deuxième. Alors ça, c'était le prix du neuf, hein. Maintenant, ouais. Le trouver en neuf, je suis pas sûr. Peut-être en Oka, sur Price Minister, eBay, ce genre de choses.
Je crois que mon comic shop l'a encore, ce truc, hein, par exemple.
Le deuxième numéro de ce Superman l'homme d'acier comprenait les Action Comics 585, 86, 87, Adventures of Superman 424 à 426 et Superman 1, 2, 3. Voilà, donc 9 épisodes et c'est tout ce qu'il y a eu de publié en VF pour le moment sur John Byrne.
Ouais. Attention, après on peut aussi en trouver, je crois, dans la période... Alors, sauf s'il était parti déjà, mais la mort de Superman peut-être, il y avait encore du John Byrne, non?
Non, il était déjà parti depuis belle durée.
Ah d'accord.
Il est resté environ 2 ans sur le
film. Il y avait quelques épisodes dessinés par Byrne dans les Superman de Panini, les magazines kiosques.
Oui, mais c'était
pas lui qui scénarisait.
Ouais, c'était pas lui qui scénarisait. Ouais, je pense qu'il se contentait de nous parler de la période, le reboot en fait de Superman post Crisis on Infinite Earths.
Il en avait scénarisé, je crois, si je dis pas de bêtises, récemment, dans ces épisodes-là. Mais là, il nous parle vraiment des vieux épisodes de la fin des années 80, début 90.
Quant à la participation d'Alan Moore sur Superman, Panini, là encore, avait sorti une anthologie en octobre 2005 à 21€ qui s'appelait L'univers des super-héros DC par Alan Moore, qui ouais. Reprenait justement le fameux Whatever Happened to the Man of Tomorrow de Alan Moore, mais aussi le Superman Annual 11, puis plein d'autres petites histoires qu'il avait fait sur Batman, sur Green Lantern,
ouais.
Un petit peu de tout, ça valait 21€.
Tout à fait, ouais. Avec la tête d'Alan Moore dessus, le bouquin est facilement reconnaissable pour ça, quoi.
Voilà, c'est à peu près tout, hein, ce qu'on peut te conseiller. Malheureusement, en VF, c'est vrai que DC est un grand oublié de la VF.
Ouais, à part au début des années 80, où t'avais quand même Sage Edition, Aredi Artima qui faisait quelques petites publications, mais le problème, c'est que il y a un grand trou à partir justement de 87 jusqu'à fin 90, quoi, à peu près. Il y en a eu dans les Strange, en fait, les derniers Strange du matériel de DC, mais
ça a duré ensuite, à peine un an, quoi.
Ouais, ça a duré un an. Et Semi qui a fait quelques petites publications, mais sur la fin. Et ensuite, bah voilà, quoi. On est passé à Panini plus tard, et puis ensuite Urban. Donc on a des gros manques.
Voilà, j'espère que ces réponses te satisferont, Marco. Merci déjà pour ton mail. Puis on va continuer avec le dernier mail de cette semaine, le mail de Arl, qui nous dit comme sujet « Scott Snyder, l'imposteur ». Alors, putain. Bonjour, je vous écris pour évoquer Scott Snyder, qui, après avoir été trop vite encensé, est de plus en plus critiqué, processus relativement classique après tout. Bien que j'apprécie son travail, j'ai toujours vu Court of the Owls, son supposé coup d'éclat, comme un Batman rip pour les nuls. La conspiration, l'enfermement et la folie, le vrai faux membre de la famille. Même le Joker de Death of the Family doit énormément à celui de Morrison, qui revenait plus dangereux que jamais après avoir disparu suite à une blessure au visage. Est-ce que Snyder ne fait pas tout? Simplement du Morrison prémâché, qui plaît donc plus facilement au grand public. Je ne remets pas en cause son travail sur Swamp Thing, mais pour Batman, jusque-là, c'est du réchauffé, et j'ai très peur que la Zero Year ne soit aussi qu'une version blockbuster de Year One. Que pensez-vous du monsieur 2 ans après sa prise de pouvoir chez DC?
Monsieur. Bon, bah, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, malheureusement, mais au fait, le truc, c'est qu'aussi, c'est pas forcément que c'est plus accessible que Morrison, c'est juste qu'il bénéficie de l'effet New 52, et donc les gens ont commencé à lire Batman maintenant, quoi, une fois que Snyder était sur le titre, donc il a été repéré grâce à ça aussi, et il est très lu à cause de ça, quoi.
Ce qu'il fait, c'est quand même très efficace, moi, je trouve. Et,
je trouvais ça beaucoup mieux. En fait, Snyder, j'ai adoré ce qu'il avait fait avant les New 52 sur Detective Comics. L'arc avec le frère...
Moi, je trouve que c'est dans la continuité. Je trouve que c'est dans la continuité, ce qui continue.
C'était original, alors que là, comme il dit, se trouve que le Court of Owls, effectivement, ça ressemble à Batman Rip, ça ressemble à plein de trucs. Death of the Family aussi. Et alors que l'arc qu'il avait fait... autour du fils Gordon dans Detective Comics, ça ressemblait à rien, quoi. C'était original, c'était bien.
Flo, Kevin, une petite réaction peut-être sur le Batman de Scott Snyder, votre avis?
Moi, j'aime beaucoup le Batman de Scott Snyder, c'est une de mes séries qui c'est mon top. J'ai toujours été plus enjoué globalement sur le Batman des New 52. Donc non, pour moi son style d'écriture est très différent de Grant Morrison. Je vois pas tellement de similitudes, quoi.
Non, mais c'est pas sur l'écriture, justement.
À part que Snyder,
c'est sur les idées.
De dire que Morrison est son auteur préféré et son idole. Je trouve que même sur les idées, moi j'ai lu le run de Morrison sur Batman. Oui, d'accord, mais bon, c'est quand même très différent dans la façon de faire et même dans les idées. Oui, ok, il y a le Joker dans les deux. Voilà, quoi. J'ai pas ressenti ça.
Kevin?
Ouais, bah moi c'est pareil, c'est une des séries que je suis vraiment régulièrement depuis les tout, le Batman. Et bon, comme le disait Florent, c'est des thèmes qui sont assez courants chez Batman. La folie, la conspiration, etc. Le Joker, évidemment. Donc moi j'aime bien, je suis assez content de ce qu'il fait. Après, pour avoir sur vraiment la durée, parce que je pense que ça s'insère sur la durée. Pour l'instant, moi ça me plaît relativement.
Voilà. N'hésitez pas à réagir vous aussi à ce que vous pensez sur Scott Snyder, justement. Est-il un clone grand public de Morrison, ou est-il vraiment différent et fait-il vraiment un boulot original et qui vous satisfait pleinement? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis peut-être que s'il y a un petit débat, on en reparlera la semaine prochaine lors du Comics-Com, justement. Et puis vous pouvez bien sûr nous envoyer vos mails comme l'ont fait Arl et Marco à l'adresse podcast@comiccity.fr. Merci à tous, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine dose d'infos. On se retrouve aussi en fin de semaine pour le Comics Weekly, qui cette fois-ci ne sera pas en live et ne durera pas 4 heures, parce que c'est trop fatigant. Mais voilà, vous l'aurez donc bien sûr samedi matin. Et puis d'ici là, comme toujours, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity. Et bien sûr, retrouver tous les anciens épisodes sur le site, sur iTunes ou sur tous les bons agrégateurs de podcasts. Merci à vous tous, merci à beaucoup, n'importe quoi. Merci à tous et à la semaine prochaine.
À bientôt les amis.
À bientôt.
Salut. Au revoir.